Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 avril 2014, nos programmes pour cet après-midi à 13h30. Et les pelures du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR c'est de l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la série fantastique. On me dit non.
Je suis pas d'accord avec toi.
Quoi ?
Mais non, je suis pas d'accord avec toi. À partir de 15h cet après-midi, c'est FMR qui est en direct de Bellegarde pour les empreintes numériques.
Tu sais, là, on vient de voir Kinou, là, qui, oui. Avec le studio mobile et tout le reste. Voilà. Ils sont en direct pour le festival Empreintes
ouais,
numériques.
Mais on avait dit que c'était une privée joke et que c'était un gag récurrent et qu'on disait quoi qu'il arrive à 15h, c'est Jano Dead. Même
ouais,
quand
non,
ils
mais
pas
là,
là
comme
non,
l'émission non. D'après vaut le coup, ben, on va quand même l'annoncer
ouais,
direct.
Ouais,
quoi.
Ouais.
D'accord.
Pour bah, pas les induire en erreur, quoi.
Mais t'avais qu'à mettre un programme à
ouais,
l'heure.
Bah après, on peut aller au TGS et tout à partir de 15h après l'émission du sport.
Alors, c'est quoi ? C'est non. À 13h30, il n'y a pas de sport déjà ?
Non.
Bon, alors à 13h30, il y a de la bande musicale. À 14h, l'émission musicale de du sport. Et à 15h, à partir de 15h, FMR est aux empreintes numériques. Et ensuite, vous, une fois que vous aurez fait un tour là-bas, eh ben, il y a le TGS. Mais dans l'immédiat, voici la série fantastique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Pas moi qui l'ai inventé, quoi. Mercredi toujours sur AB1 à 20h40, les commandos de l'ombre de Steven Mounder avec Marc Dacascos, Bruce Boxleitner, Armand Asante, c'est pas un film d'amour.
Radio FMR présente. Avec du sport, Ultimatum et Das Kritsch. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique en direct des studios de Radio FMR.
Oh,
Crash 80 Social Silence, extrait de son EP 8. Alors c'est très shady, voilà le vrai nom du groupe, du mec, pardon, excusez-moi. Social Silence, extrait de son EP 8 BP 037.
Ah, on va ressortir les vieux Spice Girls.
J'hésitais avec un remix des Spice Girls, mais en fait ce morceau c'est un hommage en fait à une série qui s'appelle J'aime et les hologrammes.
Ouais, c'était bien ça, avec les trucs fluo rose.
Ouais, une ambiance, tu vois, un peu années 80, quoi. Un petit truc dansant, marrant, où les gens sont complètement foufous, avec une ambiance de scène et tout. Mais qu'est-ce qu'on fout là, alors qu'on devrait être au TGS Spring Break en ce moment, à La Beige, à Diagora.
Exactement, je suis passé devant tout à l'heure.
Il y a du monde.
Ouais. Puis c'est bon, c'est un petit peu dommage, c'est l'édition de printemps, il fait pas trop soleil, mais c'est pas grave, ça peut se découvrir.
Ouais.
En tout cas, il pleut pas.
Demain.
Ouais. Qui peut me donner le planning complet de ce qu'il y a sur place?
Le planning complet, tu veux faire une émission spéciale dessus ou quoi?
Bah, comme on l'a fait la dernière fois, du sport, tu vois.
Alors attends. Faut que j'ouvre la dépêche.
Heureusement, on a quelqu'un sur place. Infested Grunt, bonjour.
Ah, bah voilà.
Salut la bande.
Ah, on t'entend pas là, attends.
Je disais salut la bande.
Ah, oui, salut Benoît. Nous devinons que tu as déjà fait 3 tours au TGS Spring Break. On a vu que tu avais posté des photos comme un forcené. comment est l'ambiance? Est-ce que tu t'éclates?
Alors, oui, pour ce qu'il s'agit de l'éclate, franchement, on retrouve les recettes qu'on avait pour le TGS Onami l'année dernière. C'est exactement la même chose, seulement... Ils ont mis plus d'espace, comme au TGS de décembre dernier. Donc du coup, c'est un peu moins le bordel, les gens peuvent circuler. Franchement, là, ils se sont vraiment améliorés. Moi, je vais te dire, je suis assez agréablement surpris. Ce matin, j'ai fait l'essai de passer dans la file d'attente pré-vente. En 10 minutes, tout le monde était rentré.
Ouais.
J'ai halluciné.
Alors, surtout, la question que tout le monde se pose, puisque tu l'as dit tout à l'heure, le TGS Onami a changé de nom, s'appelle désormais le Spring Break, est-ce qu'il y a des nanas à gros nichons? Est-ce qu'il y a du savon? Et est-ce qu'il y a des partous dans tous les sens?
Ouais, en clair, est-ce qu'il y a de l'alcool, de la drogue et tout ça?
Alors...
du soleil et des nanas, darla.
Alors, pour le Spring Break, je pense pas qu'il y ait... J'ai pas encore vu... Par contre, on retrouve un peu ce qu'on peut trouver au Anami, c'est-à-dire des Neko Girls, des anges, il y a vraiment.
Alors j'explique quand même pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct ou qui ne savent pas encore, on est aussi en même temps sur le réseau social et donc tu es sur Twitter, le compte Infested Grunt, et c'est vrai qu'on a vu passer là des cosplays à l'instant que tu as pris en photo de Doctor Who, bien ouais. Sûr.
Et franchement quand j'ai vu ça, j'ai pris de suite parce que la plupart des cosplays sont très bien réalisés. Je vais te dire, ça fait vraiment plaisir. Il y en a qui mettent du plaisir à faire les cosplays. Et franchement, il y a vraiment des réussites.
En tout cas, excuse-moi, mais bravo à Benoît parce que pendant qu'il nous parle, il est en train de retweeter les tweets de l'émission. Donc ça, c'est quand même.
Je le soupçonne d'être journaliste spécialisé téléphonie mobile pour avoir 14 téléphones.
Mais comment tu fais? T'as 3 téléphones ou quoi?
C'est un vrai pro.
Non, juste une tablette et.
Ça aide. Et en tout cas, on espère que tu vas préparer le papier d'ambiance et tout ça, puisque demain nous enregistrons à partir de 15h, donc au TGS Spring Break.
C'était pas 9h ce matin?
Hein? Pardon?
Bon, c'est pas grave.
Non, c'est dans les conditions du direct à partir de 15h demain. Tu fais d'ailleurs partie de l'équipe, on y va d'ailleurs. Il y a une vraie bande. À la Rouquier, mais avec des gens qui ont des choses intelligentes à dire, ce qui va changer.
En l'occurrence, ce sera une bande enregistrée.
Voilà. Oh oh! Qui sera diffusé samedi prochain.
J'ai tendu la perche.
Ouais.
Merci à toi.
Oui, et bien en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur des. Quel est ton programme de la journée? Est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, ça, il faut que je le teste?
Alors, en ce moment, il y a la Nintendo League qui organise des petits événements dans le sous-sol. Les pauvres, ils sont au fond. qui organise des petits événements autour des jeux Nintendo. Il y a les acteurs de la série Game of Thrones. Ah, je vais pas y arriver.
Game of Thrones.
Qui sont présents, un peu dispatchés. Il y a Sylvester McCoy, connu pour être le 7e docteur, qui est également présent. Comme on est sur un Spring Break, il y a une Comic Zone qui est assez grande et qui permet vraiment d'avoir des dédicaces de personnes. Quoi. Ils ont travaillé sur X-Men, sur Star Wars, sur les BD Star Wars, sur vraiment beaucoup de titres.
Et est-ce qu'ils font des dédicaces gratos ou est-ce que c'est à l'américaine?
Certaines sont à l'américaine, d'autres à la française.
D'accord, et est-ce qu'il faut avoir acheté le bouquin pour se faire une dédicace ou pas?
Oui.
Ah, bon, d'accord. Alors, à l'angoumoisine, alors.
Ça me semblerait un petit peu logique. Merci, Infested Grunt. Amuse-toi bien.
Merci. Ah bah, à demain, à la semaine prochaine.
Enfin. Ouais, enfin, tu sais, le truc, quand tu photographies, que tu mets en ligne après les photos de quelqu'un, il faut avoir une convention d'autorisation de diffusion. Ça peut être l'occasion pour choper le numéro de téléphone des nanas.
Oui. Mais t'inquiète pas, je demande toujours, en particulier pour les Necrogirls, comme ça tu auras ta base de données.
Ah bah bravo.
Allez, bam.
Dans ta face. En fait, c'est toujours pas à Balma, c'est à La Beige.
J'ai merdé tout à l'heure, oui, peut-être.
Ah non, mais je pense que Xavier, ce sera pour le restant de ses jours, il confondra les deux. Hein.
Merci.
Laisse tomber.
Merci Benoît, à demain.
Merci, ciao.
Allez, à plus.
Voilà, désolé, hein, on a toujours ces petits soucis de niveau de son. Voilà, quand on fait de l'insert téléphonique, c'est pas toujours réussi, je suis désolé. Mais voilà, donc demain, avec beaucoup d'ambiance en tout cas, on espère.
Donc nous refaisons l'appel sur cette antenne, donc si vous voulez nous voir participer à l'émission, tenter de gagner des lots, puisque nous ferons gagner des bandes dessinées et autres cadeaux, vous pouvez... venir nous voir sur le stand donc à partir de 15h demain au TGS Spring Break. Vous pouvez pas nous louper, nous aurons des t-shirts supplément week-end, des flyers de partout, des banderoles FMR.
Mais il y aura la speakerine. Il y aura demain Morgan.
Et oui,
le courrier des auditeurs. Proposez vos questions à Morgan.
Oui, amenez vos questions et vos propres courriers et Morgan les lira à l'antenne, ou alors peut-être que vous les lirez vous-même au micro.
Et peut-être que vous repartirez avec un petit truc pas dégueu.
Ouais. Mais ça...
Ah ouais. Ah ouais. Allez, venez. Franchement, ça vaudra le coup. Mon Dieu, mais c'est le supplément week-end numéro 382. Et tout à l'heure, nous avons une interview de quelqu'un qui est vraiment grand par le talent, à savoir Warwick Davis, avec une carrière assez stupéfiante et un humour sur lui-même absolument détonnant. On l'a rencontré l'an dernier au TGS d'avril, quand il s'appelait le TGS One Ami. Et vraiment, de ce côté-là, ce type est il est adorable.
Oui, super acteur. Bon, déjà, quoi ?
On fait juste le déroulé de l'intro. On fait juste le sommaire rapidement.
Oui, ben.
Avant d'entamer les news. Pardon.
Oui, non, on présente. Enfin, quoi, on diffuse l'interview juste après, là ?
Non. On fait les news après.
Ah, on fait le buzz, d'accord. Donc, vous saurez tout sur. On fera une rétro. Une interview carrière rétrospective sur la carrière de Warwick Davis. Warwick Davis, c'est peut-être un nom qui ne vous dit rien, mais c'est l'acteur. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez été vous aussi bercé par le film de Willow quand vous étiez petit, je pense que l'interview vous intéressera.
Ou par l'épopée des Ewoks.
Eh oui, ça c'est moins
glorieux. Moins glamour. Je crois, Thomas, que tu as un film de guerre tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui, un film de guerre avec de la bannière étoilée, mais sans cape, effectivement.
Sans cape.
Parce que, oui, parce que dans Les Indestructibles, on voit que la cape, c'est pas bien.
Exact.
Il n'y a pas que dans Les Indestructibles, on le voit aussi dans Les Watchmen.
Oui, mais c'est une référence aux Watchmen, en fait, dans Les Indestructibles. Oui, mais non, on le voit pas, c'est dans le roman. C'est dans Sous le Masque. Aïe, demain le quiz va être chaud. Du sport, qu'est-ce que tu as pour tout à l'heure?
Bah, de la télé.
Bon, d'accord, ok, merci. Côté news, en fait, on va garder un petit peu de news pour demain. Voilà. Une série dans la lignée de Spinal Tap, c'est-à-dire un mockumentaire. Le mot va revenir tout à l'heure. Hein. Le mockumentaire, c'est un documentaire. C'est-à-dire, imaginez BHL qui dit qu'il a vu la guerre, il l'a rencontré. Ben non, en fait, c'est complètement truqué et c'est complètement humoristique tellement que c'est truqué. Voilà, c'est le principe. Donc, Silicon Valley, c'est une nouvelle série qui est produite par la chaîne câblée HBO. Aux États-Unis, c'est donc en fait ni plus ni moins que le suivi d'informaticiens, de commerciaux, etc. qui se lancent dans la culture start-up. C'est intéressant parce que ce sont les auteurs de Beavis and Butthead qui sont derrière. Ils ont pas fait que ça, d'ailleurs ils ont fait plusieurs choses entre-temps. Mais surtout, avant qu'ils fassent Beavis and Butthead, eux-mêmes, ils étaient informaticiens dans une start-up et ils n'ont pas apprécié. Et attention, on parle avant de l'ère Internet, quoique si c'était un peu le début de l'ère Internet, c'était 93.
Oui, bah c'était vraiment le début. Hein.
C'était, enfin, il y avait déjà un début d'Internet qui marchait très bien à Silicon Valley. On n'avait pas encore le web, enfin si, ça commençait à arriver. Il n'y avait pas les outils grand public pour ça. Donc,
c'était la genèse justement à cette époque-là,
oui, hein,
outils grand public comme ça. Quoi. Enfin.
Ce qu'on appelait des portails. Vous entrez, vous avez juste un portail. Vous pouvez envoyer un email à un autre, mais alors il fallait connaître tout un truc à l'époque quand on écrivait un email. Si vous ne le saviez pas.
C'était trois pages que tu devais taper avant
exact,
de pouvoir envoyer.
Il fallait dire. Alors, cher AOL, je veux envoyer un email à telle entreprise. Donc, il faut passer par tel serveur, par tel serveur, par tel serveur. Enfin, c'était un bordel qui n'était pas possible. On fête les 75 ans de Batman cette année et Bruce Timm, c'est le mec qui a fait les séries animées de Batman et séries animées de Superman qui sont magnifiques. Et il a fait un hommage pour les 75 ans de Batman dans le style des films des années 30. Et qui est le propriétaire de Batman actuellement? C'est la Warner. Et que faisait la Warner dans les années 30? Du polar hardboiled. Et là, on a vraiment...
Du polar hardboiled et du film de monstre aussi un petit peu quand même, non?
C'était plutôt Universal.
Ouais, c'était Universal.
Ouais, mais enfin bon, tout le monde s'y est mis, hein, de toute façon. Quoi.
Oui,
bon,
après.
Ouais, parce qu'en l'occurrence, je dis ça parce que ce fameux petit court métrage animé, c'est surtout un hommage au film de monstre aussi.
Oui, tout à fait. Avec en plus Batman qui s'exprime très peu finalement. La demoiselle en détresse, on a vraiment tout le savant fou, l'homme de main, c'est vraiment tout un condensé d'un certain genre de cinéma et finalement de ce qu'était Batman. Mais Thomas en parlera beaucoup mieux que moi.
Déjà Bruce Timm, c'est celui qui a fait, donc tu l'as dit, The Animated Series, c'est le fameux Batman avec la mâchoire carrée, hein, qui est considéré par beaucoup de batmanophiles comme la meilleure adaptation du comics jamais faite, film live compris. Après c'est vrai que ce court métrage, donc c'est tout à l'honneur de Bruce Timm. Bon, après c'est pas c'est plus un petit hommage comme ça, un petit peu gratuit, bien fichu, mais c'est pas
j'ai l'impression d'ailleurs
ça casse pas des briques, quoi. Voilà,
j'ai l'impression qu'il a fait un petit peu hors budget justement, donc
oui. Après c'est quoi l'histoire? Oui, voilà, c'est exactement, c'est
ouais, il se fait plaisir, quoi.
Voilà, il se fait plaisir.
Ah, oui,
après
oui.
Au niveau
il veut faire plaisir aux fans aussi.
Ouais, au niveau exercice de style, avec ce combat dans la brume, avec un monstre, et puis dans des tons sépia, noir et blanc, un peu vert, c'est vraiment superbe. Après, c'est vrai que quand la fin arrive avec le générique, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vu cette histoire-là 150 fois, mais c'est toujours un petit cadeau de voir une histoire inédite par le maître Bruce Timm. Voilà, vous pouvez aller taper sur Google Bruce Timm, vous verrez un peu tout ce qu'a fait le bonhomme.
On le poste.
Ou vous
là,
regardez
voilà.
Sur les chaînes pour enfants, et puis tous les Batman que vous pouvez regarder. Et il fait autre chose aussi, il fait pas que les Batman, hein. Oui. Je crois qu'il a fait Green Lantern aussi. Enfin, tout l'univers d'ici, quoi, de toute façon. Quoi. Non, mais en animated et tout, enfin, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais enfin, voilà, quoi. C'est vrai que c'est Batman, c'est vraiment une réussite. On avait pu les voir à une époque qui passait le dimanche matin, je crois que c'était soit sur TF1 quoi, dans Tifou, ou soit sur France 3. C'était sur la 3.
Sur la 3. Vous vous rendez compte quand même que le cours ne fait que 4 minutes et qu'on en fait le double.
Je me suis quand même demandé à une époque si c'était pas un pseudo Bruce Timm, puisque Bruce Wayne et Tim Drake. C'est marrant.
Va savoir. Et c'est une info qu'on a eue. C'est une info qu'on a eue via Corentin.
Corentin Futur.
Corentin Futur, oui, parce que son compte sur Twitter, c'est Corentin Fuck You. Donc, Voilà, c'est pas évident à se souvenir. Il y a un concours de fan art pour être sur l'affiche du prochain film de Gros Truc.
Alors, c'est sur... non, c'est pas un concours de fan art pour être sur l'affiche. En fait, c'est un concours pour réaliser vous-même l'affiche de Godzilla. Le nouveau film Godzilla
j'adore
réalisé
quand
par,
j'ai rien à dire,
par Gareth Edwards. Gareth Edwards, parce que je confonds avec Gareth Evans qui est le réalisateur de The Raid. Alors Gareth Edwards, donc le film avec Juliette Binoche et Bryan Cranston qui sort bientôt, alors je me demande si c'est pas en avril ou en mai le prochain Godzilla. Et donc justement il y a un concours, il faut aller sur le Tumblr du film. Vous pouvez poster une seule participation par personne, votre propre affiche de Godzilla. Le lot à gagner, il faut être sélectionné parmi les trois affiches. Il faut savoir que le site proposera les trois meilleures affiches. Les meilleures affiches, ce sont les affiches qui auront été le plus likées et partagées sur les réseaux sociaux. Et les trois affiches sélectionnées seront directement proposées à Gareth Edwards himself. Donc le lot est de justement recevoir donc sa propre affiche imprimée au format affiche et participer à la campagne d'affichage du film pour la promotion. Voilà, vous pouvez on a mis le lien sur le Tumblr de ce concours.
Voilà, il y a des participations qui sont plutôt originales dans l'idée. Il y en a certaines qui franchement sont d'un très haut niveau. Mais attention, on vous rappelle une chose, c'est un concours à l'américaine. Vous cédez tous les droits dans la présentation, ils peuvent s'en servir au niveau mondial, etc. Mais après, c'est clair, c'est un beau showcase. Et c'est vrai qu'il y a certains qui ont des idées. Il y a une idée, affiche de film catastrophe 90 japonais où on voit pas grand chose, il y a beaucoup de lettrage. Il y en a d'autres où c'est extrêmement stylisé.
C'est un peu le principe. Ce sont des affiches qui sont essentiellement graphiques avec de l'illustration ou du vectorisé, comme on appelle dans le jargon pour les techniciens. Donc sachez qu'il n'y a pas de kit d'images qui sont fournis. C'est vous qui faites intégralement de A à Z l'affiche.
Je me demandais où c'est qu'ils ont trouvé les logos du distributeur, du producteur ils l'ont fait eux.
Ouais, non, mais ça se trouve facilement sur Google Images.
Et il y en a un, je me suis dit, c'est du foutage de gueule. T'as juste une photo de la mer. D'une baie, je me suis dit, bon, c'est du foutage de gueule. Et puis après, en regardant de plus près, tu vois trois petites vagues. Tu fais, ah ouais, ok. Ok, celle-là, elle est pas mal. Donc, il y a vraiment de la mise en scène. Il y a des trucs qui, franchement, semblent assurés.
Ouais, on lance un appel aux graphistes pro ou amateurs. D'ailleurs, si vous sentez que vous êtes fan de cet univers-là, de monstres géants, bah, participez. On a linké le Tumblr de ce concours-là sur notre compte Twitter. Donc, allez-y, faire un tour.
Donc allez-y, grimez votre gamin dans une ville en Lego en train de tout casser et puis derrière dans le fond on voit le vrai Godzilla.
Le but c'est pas de faire un fan art dans son garage. Le but est de participer pour que son affiche soit incluse dans la campagne de promotion.
Et
attention,
oui.
Donc un round trop amateur ça marchera pas.
Hein. Ils assurent sur le niveau. Point de vue. Et, tu vas pas me croire mais il y en a un qui est au TGS et qui nous écoute en parallèle et qui me dit que justement le premier épisode est pas mal, on voit bien le côté requin, on parle de Silicon Valley à nouveau, donc on tourne bosser.
Je comprends rien à ce qu'il a dit. Hein.
Bon. C'est pas grave, lui au moins il parle
Infested
des requins parce que moi j'en ai pas.
Ouais, Infested Grunt, tout simplement. Infested Grunt est en train de commenter nos news, donc il est en train de continuer tout en nous écoutant à être dans les allées, donc je sais pas comment il fait vu le bazar musical que c'est.
Bah, peut-être qu'il fait la queue alors il a le temps.
Ah oui, c'est pas impossible. Point de vue agenda, je vous laisse deviner ce qu'il y a ce week-end. Toutes les infos, donc tgs-springbreak.fr, évidemment. Jeudi prochain, à l'Utopia, projection unique du documentaire Game Over, le règne des jeux vidéo de Hervé Martin Delpierre, avec un débat avec Olivier Moko, auteur de jeux vidéo hors de contrôle et de GTA 4, l'envers du rêve américain. Et c'est co-organisé avec le collectif FrenchCo et Game in Society. Et le mercredi 23 avril, c'est les 450 ans
de la naissance de William Shakespeare.
Je sais pas comment il l'a fait. Il avait pas le texte sous les yeux, je sais pas comment il l'a fait.
Ouais, mais enfin bon. Ouais.
On peut se
préparer. Je vais pas dire que
c'est
facile, mais j'ai triché.
Bon, on peut préparer une spéciale là-dessus.
Oui, moi je suis pas un fan de Shakespeare, alors bon, ça va être un peu difficile quoi.
T'as raison, c'est surfait.
T'as raison. J'appelle enfin, madame du sport, je lui dis du sport n'est pas fan de Shakespeare. Bah, Roméo plus, doit mourir, il a pas aimé.
Tu veux quoi, après avoir lu quand même quelques pièces de théâtre de Shakespeare.
C'est du vieil anglais.
Non, en français traduit, mais là, dans la traduction de Pagnol. Il faut se rappeler que la bonne traduction de Shakespeare, c'est quand même celle de Marcel Pagnol.
D'accord, c'est vrai, ok, hein, c'est je vrai. Ne savais pas. D'accord. Moi, j'avais tenté de les lire en VO et c'est du vieil anglais.
Laisse
des
tomber,
fois.
C'est pas la peine.
Si, si, mais il faut des profs de littérature médiévale.
Oui, il faut que tu aies les aides à côté pour te dire oui, mais attention, ça, dans ce terme-là, ça signifie. Enfin bon, c'est très très complexe, quoi, justement.
Heureusement,
quoi.
J'avais un excellent prof, justement, chez Spiria, donc ça m'avait beaucoup aidé. Bref, tout ça, bah, on a de quoi s'amuser. Je vous propose une petite interruption musicale. C'est un truc trouvé sur internet. Oui, pardon, ultimatum.
Non, on en parlera pendant la coupure.
Je vous propose une belle interruption musicale. C'est le générique de Game of Thrones qui est repris façon Jazz Smurf. Et c'est un groupe qui s'appelle Postmodern Jukebox, qui s'amuse à reprendre des tubes modernes et qui le fait dans des jazz années 20, années 40, années 50. Et à chaque fois, c'est un truc fabuleux. Ils seront en concert en France, malheureusement à Paris, je crois que c'est le 17 juin, au Divan du Monde. Ils font donc leur première tournée et c'est franchement très bien. We'll be right back. Je me fais à raison fessé par du sport qui me fait remarquer que c'est plus jazz années 60, ce que en soi il a tout à fait raison, et c'est vrai que je suis...
Mais je dirais pas de quel côté ça lorgne. Enfin, rien que le clavier, de toute façon, ça n'existait pas dans les années 40.
Voilà, c'est Scott Bradley. Son groupe s'appelle Postmodern Jukebox, et donc c'est avec Dave Coase qu'on entend au saxo.
Connu.
Voilà.
Toi aussi, Dave de Coase, te faire bâcher en direct.
Bradley.
Bon, en tout cas, ça envoie, et il n'y a pas que ça tout à l'heure que l'on va voir.
Ouais.
Point de vue BD, on a une news un petit peu à part. Puisqu'on va parler de crowdfunding, donc le principe de lever des fonds.
Crowdfunding.
L'occasion de lever des fonds pour produire quelque chose, mais sans passer par les producteurs, mais en demandant au public s'il veut participer et être actionnaire. Tout le monde pensait que ça se cassait la gueule, notamment suite à différents projets qui sont retrouvés être des fours, ou encore le casque 3D Oculus Rift, où le mec il avait levé 10 fois sa mise, il avait monté 3 millions, et 2 ans après il se retrouve racheté 2 milliards par Facebook. Donc tout le monde a dit ok, c'est fini, tout le monde va en être dégoûté. Et en fait, pas du tout.
Oui, donc on parle d'un éditeur de bande dessinée, donc c'est le premier éditeur spécialisé bande dessinée, donc qui sur financement participatif, qui est Sandawe, donc le site Sandawe.
Dont tu as parlé à maintes fois dans cette émission.
Ouais, c'est surtout Xavier, puisque on avait chroniqué quelques albums, dont Le Chevalier Mécanique ou El West, ou encore sur Joseph Karimerick sur Elephant Man. Et donc là, on parle à nouveau de cet éditeur-là, puisque il faut savoir qu'ils ont ils sont un petit peu, pour l'instant ils n'ont pas encore connu de vrais succès commerciaux, mais ça ne saurait tarder, puisque le premier tome de la série Sarah Lone avait bien marché, continue de bien marcher, puisqu'il est sorti cette année il n'y a pas longtemps. Et donc le tome 2 a été entièrement financé, et le tome 3, le financement du tome 3 vient d'être lancé il y a 2 jours. Savoir que ce tome 3 a connu le démarrage le plus rapide de l'histoire du crowdfunding, puisque en seulement 2 jours, ils ont levé 21 000 euros.
C'est pas
21
mal.
21 000 euros, 43%. Wow. 43%, donc il faut savoir qu'au bout d'un an, il y a certains projets BD qui ne sont même pas à 15%. Donc voilà, donc c'était un petit coup de chapeau qu'on voulait donner aux deux auteurs de cette série, cette série thriller qui s'appelle Sarah Lone, donc qui raconte l'histoire d'une jeune danseuse de cabaret au départ, qui se trouve être enrôlée par une branche de la CIA dans les années 60, qui a des vues sur comment changer le... c'est un thriller politique, puisqu'il est question aussi d'un certain gouvernement américain et d'un certain président, enfin d'un certain candidat qui va accéder à la présidence, qui s'appelle JFK. Et comme par hasard, la nana, l'héroïne, elle a un fusil qui ressemble étrangement à, on va dire, un assassin notoirement connu pour ne jamais avoir été prouvé que c'était bien lui qui avait assassiné un certain président à Dallas. Voilà. C'est une série Sarah Lone qui est vraiment bien fichue. Et donc voilà, donc le tome 3 qui, je pense, au bout d'une semaine sera allègrement financé. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le.
Voilà, donc on va peut-être dire le nom de l'éditeur.
Voilà, on va quand même mentionner les auteurs. Donc l'éditeur, oui, c'est Sandawe, et les deux auteurs, le scénariste s'appelle Eric Arnoux, et le dessinateur, il est espagnol, c'est David Morancho. Voilà.
Eric Arnoux. Oui, Arnoux. C'est pas un inconnu justement dans le milieu de la bande dessinée.
Oui, c'est un scénariste chevronné.
Je comprends, à mon avis, il doit avoir des fans qui financent justement parce qu'ils ont dû accrocher à la série, vraiment. Vous écoutez Radio FMR, il est 12h35 déjà, s'il vous plaît. On va peut-être lancer de suite donc l'interview avec donc l'un des acteurs qui, à mon sens, c'est vrai que quand on l'a rencontré, c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul vis-à-vis de lui-même, ce qui est plutôt rare quand même pour des acteurs qui sont, en général... plutôt qui ont tourné dans pas mal de films.
Red Sonja.
Warwick Davis.
Non, non, mais je parle.
Non, mais Warwick Davis, voilà. Qui est un acteur anglais, bien évidemment. Grand par le talent. C'est malheureusement plutôt sur ses 1m7 de haut que les gens le jugent et c'est vraiment dommage. Heureusement, il a à la fois une grande carrière cinématographique pour abaisser les caquets et l'humour qui est tout sauf en soit bas, loin de là. C'est quelqu'un aussi qu'on a rencontré, je vais dire, pour commencer à l'âge de 11 ans.
Nous l'avons rencontré
au cinéma, oui, il avait 11 ans. Dans Le Retour du Jedi, puisque en fait, ni plus ni moins, il joue, il avait été, sa grand-mère en fait, entend à la radio, à la BBC, qu'on cherche des personnes de petite taille pour jouer dans un film de science-fiction, à savoir Star Wars. Ah, le gamin qui a 11 ans qui fait « Ah ouais, j'aime trop Star Wars et tout, on y va !» Et l'acteur qui devait, en fait, il cherchait pour faire des Ewoks, pour faire attribut d'Ewok dans Le Retour du Jedi. Et il se trouve que, tout simplement, l'acteur principal qui devait faire l'Ewok principal, Wicket, celui qui aide la princesse Leia et tout ça, eh ben, n'est pas présent. Et comme il joue un petit peu comme un chien en faisant des petits bruits et tout ça lors du casting, ben, il y en a un qui a dit, oh ben, tiens, on va prendre le petit jeune, là, il a l'air franchement bien pour le faire. Et c'est ainsi que Warwick Davis se retrouve... vraiment très bien placé, je veux dire, dans Le Retour du Jedi, même si on ne le voit pas, en fait. Hein, il est sous un maquillage et tout le reste. Et c'est justement à l'occasion de ce tournage que sera tourné par l'assistant réalisateur, justement, de du film, et celui qui fait, qui est le deuxième réalisateur, en fait, de la série. Il va tourner un petit mock-up.
Le deuxième réalisateur de la série, donc c'est celui qui a réalisé le l'épisode
2. Non, c'est le
réalisateur seconde équipe.
Seconde équipe, voilà, excuse-moi, je vais y arriver. Il suffit que tu suives mon planning, hein, tu saurais de quoi je veux parler. Qui va tourner en fait un mockumentaire, c'est-à-dire un documentaire, comme on a dit tout à l'heure, donc parodique, où Warwick Davis joue son rôle principal. Et ça s'appelle Return of the Ewok. Et comment un gamin de 11 ans se retrouve à tourner dans le film qu'il adore par-dessus tout, avec tout le cast quand même de Star Wars, sur les sets de Star Wars, tourner aussi chez les parents de Warwick Davis avec ses propres parents et tout le reste. Et c'est malheureusement, à ce qui paraissait, assez drôle, mais malheureusement ça n'a jamais été finalisé. Donc la seule chose que l'on a, c'est juste une VHS qui est dans la cinémathèque personnelle de Warwick Davis et que des fois il prête. Alors on imagine en VHS sa qualité d'image depuis le temps, elle a dû chuter et tout ça. Et c'est bien malheureux. Warwick Davis, finalement, ben, il va se retrouver dans d'autres films de la série Star Wars, notamment L'Aventure des Ewoks. Hélas. Ben oui, ben, il fait le rôle principal. Hein.
C'est bien ce film-là où c'était la voix off de Dorothée.
Oui, qui chantait.
Ouais, ouais.
Aussi.
Elle faisait la narratrice aussi.
Et dont toutes les copies ont été rachetées à prix d'or et brûlées par George Lucas lui-même.
Oui, dans le Les Ewoks à Noël aussi.
Oui, tout à fait. Il a fait un TV film.
Non, mais il n'a pas pu justement, quoi. Et d'ailleurs. Dans South Park ou dans une série comme ça, on le voit justement qui déclare « Ah, si j'avais pu brûler toutes les copies de ouais. Robin, mais je peux pas !»
Encore une fois.
Et bon, bah, c'est vrai que ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est ce que j'ai repéré quand j'ai regardé cet excellent documentaire qui s'appelle « The People versus George Lucas ». Justement, les fans qui sont furieux, qui disent « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça, enfoiré ?» Ouais, puis qui sont des fans, des vrais fans et tout. Et bon, bah, le moment sublime, c'est quand même quand ils évoquent justement ce fameux épisode avec, bon bah...
Non, ça c'était tourné en 78, c'était bien avant.
Oui.
C'était bien avant, moi je te parle de 83, le retour du Jedi. T'as
oui,
pas suivi.
Oui.
Au lieu de regarder des images pour nous...
Non,
hein, que tweet, une facette grunt.
Tu me lances sur des trucs que
le
père George a complètement renié par la suite et qu'il a essayé d'effacer de sa filmographie. C'est le fleuron celui-là. Quoi.
Non, mais c'est, ça n'a aucun rapport du sport. On s'en fout, tu me casses l'intro. Il a tourné donc L'Aventure des Ewoks, il a tourné un autre téléfilm de Noël avec les Ewoks. Celui
donc
de 85, donc voilà.
Tout de suite, on a les précisions.
Tu parlais.
Non, il parlait d'un autre.
Il parle du film de Noël, là.
Et ensuite, eh ben, donc, on le retrouvera, Warwick Davis, on le retrouvera bien après dans Star Wars, dans La Menace Fantôme, puisqu'il va jouer trois personnages et même il joue en fait Maître Yoda dans certains cas. Ça n'est pas que de la 3D, il y a aussi de la motion capture et c'est lui qui joue justement de ce côté-là.
Ben moi, Yoda, je préférais en marionnette.
Aussi. En 88, il se retrouve premier rôle dans le film Willow avec en second rôle Van Kilmer, s'il vous plaît. Donc c'est lui le rôle principal hein, dans Willow et c'est le film qui le consacre et dans lequel on... Quoi ?
Ben, y a Val Kilmer quand même.
Oui, mais c'est qu'un second rôle, on s'en fout, c'est pas le plus important. Puis ensuite, Warwick Davis va jouer dans nombreux téléfilms.
Ah, laisse-le, dont, c'est son texte.
Dont une adaptation télé de Narnia pour la BBC. Et il jouera d'ailleurs dans, les adaptations ciné récentes du monde de Narnia, mais dans d'autres rôles. En 93 sort le premier des six, Le Pruncho. Film d'horreur dont on va parler d'ailleurs le quatrième, Le Pruncho, Le Pruncho dans l'espace.
Non, c'est Le Prunchown.
Est considéré comme le plus mauvais. T'avais qu'à le faire le texte. Fais la suite.
Le Prunchown.
Tu fais la suite.
J'ai jamais vu la série Le Prunchown. T'as vu toi
ça ouais, les précornes.
Ouais, les précornes.
Ouais, j'arrive pas à le prononcer.
Non, j'ai dû jeter un œil dessus, mais ça va pas...
Bon, à ce qui paraît, celui dans l'espace est le plus mauvais film noté dans IMDb. Forcément.
Il joue le rôle d'un professeur aussi dans Harry Potter.
Ça, c'est effectivement... il a plusieurs rôles dans le Harry Potter. C'est vrai qu'il joue le professeur Flitwick. Et d'ailleurs, il a son propre court-métrage là-dessus qui fait partie, en fait, d'une série d'attractions. Excusez-moi, j'allais dire d'attrape-nigo. Dans le Universal World, qui est consacré à Harry Potter. Il joue dans H2G2, le guide du retard galactique, Marvin, l'androïde paranoïaque. Et il joue aussi dans Jack, le chasseur de géants. On le voit aussi dans de nombreuses séries, Le Dixième Royaume, Merlin, Doctor Who et finalement...
L'androïde dépressif, tu veux dire ?
Oui, oui. Mais c'est l'androïde paranoïaque, c'est la vraie traduction.
Ah, d'accord.
Et il a sa propre série au final, Life is too short.
Non, Life is short.
Life is short. D'accord, ok. Il y a une erreur dans la wiki ? Co-créé par Rick Gervais et Stephen Merchant, oui, les créateurs quand même de The Office, s'il vous plaît, et où il s'auto-parodie lui-même dans cet épisode. Une deuxième saison est annoncée. Il a aussi fait un jeu sur lui-même. Warwick Davis, on a eu le bonheur, le plaisir, et vraiment de ce côté-là, on a été surpris par son accessibilité. On a pu le rencontrer au TGS au Hanami l'an dernier. Malheureusement, la traduction, on a eu des petits soucis, donc vous étonnez pas des fois s'il y a des décalages entre les questions et les réponses. Le traducteur, il en pouvait plus. On était vraiment en fin de convention, et quand même, il a eu du courage. Warwick Davis, donc au TGS, mon ami.
Warwick Davis, very pleased to meet you.
Thank you, Angie.
On vous connaît surtout dans les films de genre, de la fantasy, de la science-fiction. Est-ce que vous aimeriez tourner dans un drame ou une comédie sentimentale ?
Yeah, I mean, if you look back at my career, the main genre of film that I've been in have been science-fiction, fantasy.
Si vous regardez ma carrière, j'ai surtout tourné dans des films de science-fiction ou de fantasy. Je regarde plein de types différents de films et j'apprécie l'évasion qu'offrent ces genres. Mais d'un autre côté, ça serait agréable de se voir proposer des rôles d'une personne normale, avec ses problèmes de tous les jours que je pense que tout le monde a. Un peu comme le Warwick Davis que je joue justement dans ma série Life's Too Short. Des problèmes d'argent, des problèmes de couple. Ça m'a amusé de le faire, donc oui, cela me plairait d'avoir plus de propositions dans ce sens. Mais d'un autre côté, la science-fiction et la fantasy me permettent de créer des personnages bizarres et fantastiques de par mon physique et les artistes talentueux qu'on y rencontre sur les tournages. J'adore jouer. Que cela soit pour un film de science-fiction ou d'horreur ou une comédie, j'adore jouer. Such weird and wonderful and amazing characters, you know, working with makeup artists and all sorts of different skilled people like that. And I love it. I mean, primarily I enjoy acting. So whether it's acting in a science fiction or a horror movie or in a comedy, you know, I enjoy doing it.
Vos enfants vous préfèrent en aventurier, en robot dépressif ou en professeur de magie ?
Le désespoir de la trad.
Vous auriez dû m'envoyer les questions avant.
You know, my kids are not.
Mes enfants n'ont pas encore vu de films terrifiants où j'ai joué, mais de ceux qu'ils ont pu voir, ils ont aimé Harry Potter, Star Wars. Maintenant que vous me posez la question, je découvre que j'ai eu beaucoup de chance d'être dans des films qui ont eu un large public. Le personnage que j'ai vraiment adoré incarner a été Marvin, l'androïde paranoïaque dans H2G2, le guide galactique, qui est un robot. Ce fut un rôle physiquement difficile et émotionnellement. Le costume était lourd, c'était un travail dur. Peut-être que ce qui me le fait préférer à mon rôle dans Harry Potter, qui fut lui aussi très dur à cause du maquillage. C'était des rôles pas faciles, et dont le rendu à l'écran me fait vraiment plaisir à regarder. Again, was very hard work with all the makeup, but really satisfying to watch. And you know, I'm very fond of all of the characters that I played in those films. Jouer le Prince Show, c'était une vengeance vis-à-vis de vos enfants.
Oh, okay, okay. When I did the first Leprechaun film, I actually didn't have kids at that point.
Quand j'ai joué dans le premier Leprechaun Show, je n'avais pas encore d'enfants. J'étais sans travail, le script est arrivé à point nommé, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais besoin de bosser. Et ça m'a semblé opportun dans ma carrière d'être vu aussi dans un rôle diabolique, car j'avais eu jusque-là que des rôles de personnages sympas, de bons gars. Le Leprechaun Show allait me permettre d'être plus versatile, sous un angle différent. Et finalement, on en a fait 6 films où je suis devenu plutôt populaire dans ce rôle. J'ai même un culte qui m'est voué un peu partout dans le monde. Je n'en ai aucun regret et c'est pas le genre de film pour enfants. Pour le dernier Halloween, je leur ai montré le premier film de la série. À mon avis, le premier encore, ça va. Il y a quelques scènes où vous pouvez simplement vous cacher les yeux. Mais à part ça, non, tout va très bien entre nous.
You can cover their eyes, but apart from that, it's all fine, I suppose.
Depuis les récompenses gagnées par Peter Dinklage dans Game of Thrones, est-ce que le téléphone sonne plus souvent de la part d'Hollywood chez vous?
I've known Peter for quite a number of years now. We worked together actually on the Chronicles of Narnia.
On ne s'est pas vu depuis quelques années. La dernière fois que nous avions tourné ensemble fut sur Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian. Peter est un acteur formidable. Il a tourné pas mal dans des rôles formidables pour des acteurs de petite taille. Oui, je pense que nous deux, nous faisons en sorte qu'il y ait des rôles plus divers et intéressants pour les personnes de petite taille. Les productions réfléchissent sur nous d'une manière différente. Peut-être même qu'un jour, l'un de nous aura le premier rôle d'un film romantique, mais nous devrons encore gagner en visibilité. Son succès est dans le bon sens.
John Rhys-Davies, acteur de grande taille, a joué un nain dans The Lord of the Rings. Voudriez-vous jouer un personnage de grande taille?
Oui, je vais jouer un personnage avec une barbe qui s'appellera John Rhys-Davies et je lui prendrai son rôle. John avait peur d'être attaqué par les acteurs nains pour leur avoir soufflé le rôle. Ce que je vais faire à la prochaine convention où il apparaîtra, je le surprendrai derrière la scène et je l'attaquerai. Entre nous, il est formidable et je connais John. Il était très content de faire cette performance pour Peter Jackson. Et franchement, je ne vais pas l'en blâmer. J'ai beaucoup de boulot actuellement et pas mal de perspectives prochainement. Il n'y a qu'un seul moi-même et je n'ai pas le temps de tout faire, donc il y a des choix qui doivent être faits. Pour être honnête, il était même un nain plutôt réussi.
Quand
vous avez eu le scénario de Willow, quand vous l'avez reçu, est-ce que vous avez pas eu peur, en fait, qu'on revienne à ce que faisait Universal dans les années 30, c'est-à-dire des westerns avec des nains?
I mean, that's a genre I didn't think about. Westerns, like cowboys and stuff.
Ah oui, vous parlez de ces parodies de westerns avec les nains, cowboys, ou même les chevaux étaient d'ailleurs de petite taille. Au moment où on m'a fait l'offre, je n'avais pas du tout les détails du script. Ouais, bon, je me serais bien vu à l'époque comme porte-flingue. Descends de ton cheval et va boire du lait. Pour être honnête, avant tout, je suis un acteur. J'adore jouer et interpréter. Si l'histoire est bonne et le personnage est bon, évidemment, je regarderai la proposition. Après, jouer un western, je ne sais pas trop, mais qui sait.
Si le script est bon et le personnage est bon, je regarde. Donc, you know, every opportunity greatly received. But yeah, as for a Western, I'm not sure. Who knows?
On sent vraiment votre joie de vivre et d'être un acteur, mais aussi de jouer en fait de votre propre vie, puisque on le voit dans Life is Too Short, on le voit dans Pocket Warwick. Finalement, vous aimez beaucoup rire de vous-même. J'adore regarder les comédies. Durant ma carrière, on m'a fait de nombreuses propositions de comédies et ces dernières années, j'ai eu l'opportunité de faire Life's Too Short. Pocket Warwick est un jeu pour mobile que j'ai voulu faire depuis quelques années, pour faire quelque chose pour moi sur smartphone. C'est une technologie que j'adore et je voulais y mettre de l'autodérision. Je pense qu'on peut amuser le public et les faire rire par cette app. C'était une opportunité. Franchement, télécharge ce jeu, il est gratuit, aucune excuse. Bon, ok, il est en anglais, mais je ne pense pas qu'il soit trop difficile à comprendre. Tu dois t'occuper de moi, m'éviter d'être cantonné au film Z, en arrivant à me faire classer comme célébrité de type A et m'y maintenir. C'est un challenge assez fun.
But it's not too difficult to understand, I don't think. You just have to look after me, basically, in the phone, and get me from being a Z-list celebrity all the way at the bottom, all the way up to being an A-list celebrity, and then keep me there. It's a fun challenge to have.
Merci beaucoup, Warwick Davis. C'est un immense plaisir de vous rencontrer parce que pour moi, Willow était vraiment le meilleur film de fantasy et franchement, de ce côté-là, ben voilà, je suis très heureux de vous rencontrer.
I think the success of Willow.
Il semble que le succès de Willow ces dernières années vienne de France, où le film semble incroyablement populaire. J'ai l'impression que la fantasy est chez vous un genre très à la mode. Je remercie beaucoup les fans du film et j'espère que vous allez vraiment apprécier l'édition Blu-ray. La qualité d'image est absolument superbe et quand l'éditeur m'en a offert une copie lors du visionnage, j'ai découvert des détails dont je ne me souvenais plus tellement que l'image est fine. Et il me semble que quand on me regarde en HD, je suis un peu plus grand.
I saw things in the film that I don't remember seeing because it's so crisp. And also I think in Blu-ray, in HD, I'm actually slightly taller as well, which is good.
Vraiment beaucoup d'humour.
Excellent quoi.
Non, sérieux.
À la dernière était excellente de toute façon quoi.
Sérieux,
non, mais moi je trouve qu'il parle vraiment fluently et puis sans aucune difficulté de compréhension.
Ah, mais des fois il accélère dans les phrases.
Il a pas l'accent. Il est pas écossais, il est pas irlandais, il est pas gallois, merde quoi. Enfin, ouais, du moins il a pas l'accent quoi.
Ouais, il parle normalement quoi.
Ouais ouais. Justement quoi.
J'ai quand même souffert à la trappe par des fois parce qu'il il mâchonne des mots.
Non, quand tu te fais des Broadchurch et après juste après The Fall, tu sais quoi, d'abord le truc qui se passe au fin fond, presque au pays de Galles et tout, puis après un truc qui se passe en Irlande du Nord, tu dis bon, ouais, là, Warwick Davis.
Bon, est-ce que au trop moins fun. Tu vas télécharger l'application Pocket Warwick?
Non, oui. Pas spécialement, pourquoi?
Bah, il a pas entendu l'interview.
Sous-entendu,
voilà.
Est-ce que non, tu mais même. Un smartphone? Non, mais non.
Non.
Bah si,
non.
Si
non.
Il a un nain pour ça.
Il a
ah oui, je sais. Elle était dure, elle était difficile.
Ouais, non, mais... Le problème, c'est que j'aurais trop honte que mon fils me montre comment fonctionne un appareil.
Ok, Warwick
ça,
Davis, donc...
De tout, Warwick... de tout parent. Hein.
Tout à fait, ouais. Mais bon...
Warwick Davis, donc, que nous avions rencontré l'an dernier au TGS, au Anami, qui était franchement extrêmement accessible. Et il y a plusieurs choses dans son actualité. Notamment, il y a un reboot, si on ne le sait pas, de Le Prince Show. J'arriverai jamais à le
comment
dire.
Comment tu dis ?
Mais c'est pas lui qui va jouer dedans. Ouf. Du sport, tu me l'avais demandé tout à l'heure.
Oui !
Carlos Whisper, version années 30, cette fois-ci. Toujours par Most Modern.
Bon,
checkbox.
On va voir s'il se plante pas d'époque, quoi.
Allez. Ah! Dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all. Careless Whisper repris par Postmodern Jukebox et oui, quand même.
Oui, oui, quand même.
Oui,
ouais, quand même.
Ça assure.
Bon, il faut dire que le support au départ est bien.
Tu viens de dire du bien de George Michael
ah bah
sur Radio FMR.
Bah, s'il faut retenir des trucs bien des années 80, George Michael en fait partie de toute façon pour moi.
D'accord, excuse-moi. Non, c'était la bande son derrière qui avait continué.
George Michael, c'est George Michael, hein. On va bah ouais, pas le changer. Hein,
bah ouais.
Il a fait de la merde aussi, mais il a fait du bien.
Bah, il a fait de la merde. Il a fait des trucs qui étaient pop, qui étaient. Ouais. Bon, voilà, quoi. Après, on apprécie pas.
On apprécie pas. En drama queen, tiens, le du sport. À son époque punk, j'aurais pas cru. Aïe. Déjà ? Non, c'est 13h. Ben, dans ce cas-là, on va enchaîner sur le cinéma. Hein. La séquelle vous est présentée par Ultimatum.
Ah ouais, alors on vous parle aujourd'hui du nouveau film Marvel qui sort sur les écrans, puisque voilà, c'est dans la longue série. Comment ?
Il est sorti déjà, je crois.
Il est sorti, oui.
Ouais, pardon.
C'est Captain America The Winter Soldier, des frères Russo, Anthony et Joe, de leur prénom. Alors, je me rends compte que j'ai fait la critique, la chronique sur mes fiches, mais j'ai pas fait le résumé. Bon, je vais vous le faire comme ça. Donc, au départ, dans le film, on voit Captain America en pleine infiltration avec une mission du Shield à la Expendables, c'est-à-dire on va essayer de... Bon, sans désinguer des gens,
pas trop fort.
Donc, ils vont essayer de secourir des otages sur un bateau, en fait. Et alors là, la mission se déroule très bien, sauf que Captain America s'aperçoit, bon, il fait partie du SHIELD, donc il y a Natasha Romanoff dans l'équipe, et il s'aperçoit à la fin de la mission que la petite Natasha, elle commence à mettre une clé USB dans un port, et puis il s'aperçoit que la mission, c'était pas juste sauver les otages. Alors, le petit Captain, lui, il aime bien quand tout est carré, alors il comprend pas, il dit « Tiens, on m'avait caché ça, qu'est-ce que tu fais ?»« Pour des questions, t'as qu'à demander à Nick Fury. » Retour de mission, débriefing, « Bon, Nick Fury, c'est quoi ce bordel ?» Alors Nick Fury lui dit « Ouais, écoute, c'est moi le chef, je cloisonne. » Ok, le temps est donné, donc Captain America, en fait, il est un peu déboussolé, le pauvre, au début du film, il sait pas contre qui se bat parce qu'il n'y a plus d'ennemis, il ne sait pas pour qui se bat parce que c'est un pays qu'il ne connaît pas, une organisation qu'il connaît pas, il s'aperçoit au fur et à mesure qu'il sait rien du tout du SHIELD. Et Nick Fury, il est bien mystérieux pour un boss, voilà. Bon, déjà, il est borgne, donc ça aide pas. Nick Fury lui montre le super pouvoir de frappe du SHIELD, regarde, c'est trop bien, regarde nos beaux héliportés qui ont des gros canons pour exterminer les méchants. Et puis, Captain America dit « ça a l'air super bien, effectivement ». Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on s'aperçoit que Nick Fury, il a un gros doute à un moment donné sur un truc mystérieux, on ne sait pas encore. Et il se dit finalement, notre grosse opération de protection des innocents que nous sommes en train de mettre en place avec plein de pontes en cravate du SHIELD, on va peut-être le retarder parce que j'ai l'impression qu'il y a un os dans le boudin. Et donc les fameuses héliportées du début avec une énorme puissance de frappe, tu te dis à un moment donné, pauvre petit spectateur qui ne sait pas encore rien, qui ne sait encore rien du script, mais j'espère que ce sera utilisé à bon escient. Clin d'œil. Et donc on s'aperçoit au cours du film vous savez le méchant, l'organisation méchante dans le premier Captain America qui s'appelait Hydra.
Oui.
Et imaginez si finalement les nazis et les anciens collaborateurs d'Hydra, ils n'étaient pas tous morts et qu'ils avaient été enrôlés par l'armée américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de faire des expérimentations en secret. Et imaginez que ces méchants de l'Hydra, eh ben, au lieu de se faire enrôler par l'armée américaine, eh ben, qu'ils l'avaient, ils s'étaient sciemment fait capturer pour infiltrer l'ennemi de l'intérieur. Et imaginez, évidemment, que ces pontes en cravate aujourd'hui, eh ben, en fait, ce sont des soldats d'Hydra qui sont infiltrés à tous les postes du gouvernement et des puissances de feu. C'est ce qui se passe. Le Shield est gangréné.
Ah, ah, c'est pour ça que Dustin Hoffman, il arrive à en choper un dans Marathon Man.
Oh non, ça.
Mais alors.
Non. Alors déjà, ok, bon. Point pour classique cinématographique. Et mauvais point parce que celle-là, pour la retrouver, il y en a qui ne connaissent mais pas si. La filmo des années 80 quand même.
Tant pis pour eux.
C'est pas les années 80,
70.
Alors, tu crois pas c'est bien dire du sport,
ouais.
Puisque le film Captain America, le soldat de l'hiver, est un hommage géant au film des thrillers paranoïaques des années 70.
Bah oui. Le scénario que tu décris depuis le début, je me dis, mais c'est quoi, quoi.
C'est exactement ouais, ça. Ouais. Et qui de mieux, puisqu'à Hollywood, aime bien faire des clins d'œil au niveau des castings. Donc, si je vous dis les hommes du président, les trois jours du Condor, oh. Qui on va prendre pour faire le gros méchant infiltré dans le film Captain America, à l'instar de Jonathan Pryce que nous étions allés rechercher pour faire le méchant de Demain ne meurt jamais, on va prendre Robert Redford.
Ce qui est quand même the casting en or.
Ben,
Robert Redford qui est quand même le chantre du cinéma indépendant américain.
Oui, exactement, oui.
Non, ouais, enfin,
dans
bon,
une
supposé.
Méga production.
Enfin, au départ, c'était ça. Au départ, c'était vraiment, si tu regardes le nouvel Hollywood, Robert Redford, c'était quand même en ligne de mire. Alors, le film, paradoxalement, eh ben justement, on parle des films paranoïaques, les thrillers politiques, eh ben c'est dans ce genre-là que ce Captain America fait mouche, surtout, et plutôt pas du tout dans, enfin, au moins en tout cas dans sa frange super-héroïque. Alors c'est vrai que le climax du film dans les 30 dernières minutes, c'est vraiment un truc super-héros, des effets spéciaux de partout, des explosions de partout, avec introduction de nouveaux super-héros à l'écran, je ne vous dirai pas de qui il s'agit, même si dans l'affiche on le voit. Donc là vraiment les bastons de super-héros, chacun son face à face et tout. Mais là, tout le déroulement du film et notamment cette montée de la paranoïa, parce qu'il faut voir quand même que tout, on se met à la place du Captain America, c'est-à-dire il y a les gentils là, les méchants de l'autre côté, et puis moi je castagne avec mon bouclier. Ben, imaginez un monde où tous les repères volent en éclats, il sait même plus qui sont ses amis. Nick Fury, au début du film, tu es persuadé que c'est le bad guy du film quand même. La veuve noire, donc Natasha Romanoff, incarnée par Scarlett Johansson, tu te demandes s'il est dans son camp, s'il est dans le camp de Nick Fury. Tu commences à un peu épier les voisins de Captain America dans les plans. Tu dis, ah, lui, et finalement, cette montée de la paranoïa fonctionne super bien à travers des scènes choc. Pour moi, la scène, on en voit un bout dans la bande-annonce d'ailleurs, une scène de kung-fu, de combat dans un ascenseur avec des parois vitrées autour, où on voit Captain America justement qui commence à avoir tous les pontes en cravate. On voit que ce sont des gens à leurs heures perdues qui font pas mal d'heures dans les salles de sport. certains ont d'ailleurs la main sur en train de désarmer la sécurité de certains flingues. Donc on voit qu'il va un peu déguster. Parallèlement à ça, Nick Fury, on voit au travers de quelques répliques, au détour de certains plans, que lui aussi se pose des questions. Donc il est en train de conduire son 4x4 blindé de partout avec intelligence artificielle, aide au pilotage. On voit que juste avant, il a des reconnaissances rétiniennes ou des passes qui ont été annulées. Et il se fait prendre en chasse par des autres voitures avec des gens que tu t'avais reconnu au départ dans le film qui étaient plutôt de son côté. On comprend pas pourquoi ils sont finalement ils en veulent à sa peau. Une séquence de braquage de voitures qui est Michael Mann-esque, qui est John Frankenheimer-esque période Ronin, mais vraiment bien fichu. Tu tripes vraiment. Moi franchement c'est l'une des scènes les plus réussies du film. Avec où ils y vont vraiment au bélier contre la portière. Et cette apparition du soldat de l'hiver, qui est la cerise sur le gâteau, parce que tu le vois pas venir du tout. On va dire le soldat de l'hiver, il a trois répliques dans le film. pas parce qu'il est pas présent, mais parce que c'est quelqu'un qui parle pas. Franchement, le film est réussi de ce côté-là. Côté voilà, thriller parano, film d'action urbain, là ça marche bien. Après. quand on voit que...
Ah, oh, mais tu me l'avais vendu, là, j'avais envie d'y aller et tout.
Ah bah moi, elle me le vend, là. Hein.
Ah ouais, 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 là, ouais, faut, ah ouais. De ce côté-là, ça marche ah ouais, très, très bien. Ouais. Ensuite, ah c'est ouais. vrai que les relents de l'Hydra, avec cette espèce de complot... bon, on... Voilà, le film est une traque gigantesque, donc c'est vrai que là, on voit que le Captain America, il est déboussolé, on est vraiment dans, en empathie avec lui. Quelques mots sur le casting et sur l'aspect Captain America. Donc le héros, peut-être plus aspérité que dans, sûrement d'ailleurs que dans Avengers. Dans le premier Captain America, on voyait vraiment la transformation entre l'être chétif ouais. et l'armoire à glace qu'il est devenu après. C'était pas inintéressant dans ce film-là. On regrettera peut-être que Marvel souhaite plus se concentrer sur l'aspect bené. L'aspect vraiment virginal, pur, comme ils l'ont bon, fait.
Es-tu sûr que c'est Marvel qui a décidé ça?
Bah, en tout cas, l'éclairage du film a voulu ça. C'est un peu, on va dire, la revisitation qu'ils avaient fait aussi sur Superman chez l'ennemi, puisque dans le film de Richard Donner, c'était vraiment la figure paternaliste, protectrice américaine, mâchoire carrée, le gars qui est... Vraiment, la lutte contre les communistes, pareil, voilà, c'était
Captain America. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, au niveau, c'était l'état d'esprit général et tout, quoi, qui était justement, quoi, mis en avant, en plus, dans les comics, mais à partir d'une certaine époque, Civil War, entre autres, bah, surtout, Captain America a changé de dimension, quoi, ouais. a changé de dimension dans l'univers des comics, et on a profité... De cette époque-là justement quoi pour essayer de remettre Captain America en avant on a ressorti des titres uniquement Captain America avec Captain America en titre et tout et ça préparait un petit peu quoi justement quoi ce,
on renvoie sur l'excellent dossier de Comics Blog à ce sujet dont on avait parlé il y a 15 jours qui justement éclaire énormément sur pour comment Captain America a dérivé au fur et à mesure fonctionné des décennies des années 40 smasher de nazi, années 50, cogneur de communiste, au mec qui était rempli de questionnements sur lui-même dans les années 70-80, justement avec une période parano à ce moment-là. Excellent dossier préparatoire, à mon avis, peut-être avant d'aller voir le film. Je sais pas si du coup tu as lu.
Moi, je l'avais pas lu avant. En tout cas, je trouve que, à l'instar de Superman, vraiment, où ils ont revisité également le personnage avec beaucoup plus torturé, beaucoup plus entre guillemets féminin, ça participe aussi à l'évolution de la figure masculine dans la société d'aujourd'hui, qui n'est plus du tout le côté garagiste des années 50, mâchoire carrée, on va aller la fleur au fusil, péter du Nyakoé, péter du communiste. Où aujourd'hui on a vraiment le mâle plutôt féminisé, plutôt métrosexuel, et puis on est vraiment dans cet éclairage-là par rapport à ces figures de super-héros. D'autres remarques à faire sur le casting, bon pour moi, ils en ont trop fait avec Scarlett Johansson sur le film, ils cherchent trop la pose super-héroïque, le côté, les côtés plan cool, elle mâche du chewing-gum et tout, alors elle fait ce qu'elle peut. Je préférerais plutôt l'éclairage qu'ils ont, la mise en scène qu'ils ont fait du personnage de Nick Fury. Parce que là, vraiment, il gagne en aspérité. Mmh. Bon, de toute façon, Samuel Jackson, il gagne de toute façon au fur et à mesure des films en charisme, vu qu'il en avait déjà au départ. Mais là, c'est encore plus flagrant dans ce film-là. Ou même s'il n'est pas de toute l'histoire.
Surtout que c'est lui maintenant qui guide justement ce que devient les comics, quoi.
Oui. Alors, c'est marrant parce que je suis impressionné par le virage à 180 degrés que ce film-là fait prendre à la galaxie Avenger. En tout cas, vous verrez, après avoir vu le film, que Avenger 2, si vous voyez pas ce film-là, vous serez largué. Le Shield, c'est plus le Shield que vous avez connu dans le Avenger. Il faut voir ce film.
C'est plus celui avec The Woods.
The Woods. C'est quoi The Woods?
Donc K2000, là...
David Hasselhoff.
Oui, David Hasselhoff.
Bah non, mais bon, on laisse tomber là.
Ah oui, donc le Nick Fury incarné par ce personnage. Voilà. Enfin, en tout cas, vous verrez le film, vous verrez pourquoi il faut absolument le voir, sinon le rattrapage dans le Avenger 2 risque d'être un peu lourdingue au début du film. Voilà. Ensuite, voilà ce qu'on pouvait dire sur les personnages, sur les acteurs, les personnages à présent. Donc. Alors c'est là qu'on s'aperçoit qu'ils sont assez forts au niveau Marvel puisque je vous avais parlé d'un court-métrage, alors je sais plus si j'en avais parlé en off ou dans l'émission, le court-métrage en bonus du Blu-ray de Avengers Donc on suivait justement, c'était après la grosse baston dans Manhattan où il y avait, on voyait un couple qui entrait en possession d'un des fusils laser des envahisseurs extraterrestres et qu'ils étaient pourchassés par le successeur de l'agent Phil Coulson du SHIELD, celui qui meurt avec ses cartes Captain America dans le Avenger. Et il est remplacé par un autre agent qui est très très efficace qui s'appelle Stilwell. Et donc cet agent Marvel, cet agent du SHIELD, tient un rôle assez prépondérant dans ce Captain America. Justement, avec un éclairage sur ce personnage qu'on ne soupçonnait absolument pas au vu du court-métrage qui était en bonus du Blu-ray Avenger. Chez Marvel, ils sont également très forts puisqu'ils font aussi des clins d'œil inter-film Avenger. Puisque l'un des... Je sais pas si tu te souviens d'Iron Man 2... Où il y avait une espèce
le bouclier de Captain America qui soutenait l'accélérateur.
Exactement, voilà, pour faire le niveau. Et on avait également un gars en costard cravate qui était l'ennemi d'Iron Man et qui l'épingle à la fin pour mettre son petit badge. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Oui.
On retrouve ce personnage-là dans Captain America, éclairé sous un jour totalement nouveau, qui est très surprenant d'ailleurs. Hormis ces clins d'œil aux autres films d'Avenger, on notera également de nombreux clins d'œil de Marvel aux fans. La voisine de Captain America, si je vous dis son vrai nom, Sharon Carter, ça évoquera peut-être certains trucs aux fans purs et durs de Captain America, j'en dis pas plus. Si je vous dis que dans le film, il y a la présence d'un certain Brock Rumlow, alias Crossbones, je vous dirai aussi, vous faites la petite gymnastique dans votre tête. Sachez aussi que le prochain super-héros Marvel qui sera adapté au cinéma, il y a une petite allusion dans le film, puisqu'il est nommé au travers d'un dialogue. Je ne vous dirai pas qu'il s'agit d'un docteur.
Agent of S.H.I.E.L.D. À la télévision.
La série télé, oui.
La série télé. Yeah. On n'était pas persuadé qu'elle soit renouvelée vu les scores qui n'étaient pas super au démarrage. Finalement, elle est renouvelée, elle marche bien. Le problème, c'est que c'est un des personnages qui meurt dans Avengers.
Alors, cette série, c'est une séquelle ou une préquelle à Avengers? On ne sait pas.
Je ne peux pas dire.
A priori, c'est une préquelle.
Ah, ben oui, puisque... voilà.
Et oui.
Alors, comme je chronique un film de la franchise Avengers... Je dois dire quelques mots sur la fameuse séquence post-générique.
Ah non, je pensais que tu allais parler de l'apparition de Stan Lee.
Alors, l'apparition de Stan Lee, toujours savoureuse.
D'accord.
Très rigolo. Voilà. Okay. Non, c'est marrant parce qu'en fait, dans le
parce qu'ils avaient quand même fait très très fort, c'était lors d'un fight dans un Spider-Man.
Oui. Il était dans une bibliothèque.
Dans la bibliothèque, voilà. Là, c'était carrément énorme. Quoi.
Alors, l'apparition dans ce Captain America, elle est rigolote puisque... Captain America, au début du film, alors c'est là qu'ils sont aussi très forts parce que ça justifie le changement de costume. Au début du film, il a un costume vraiment modernisé de Captain America. Et par la suite des opérations, il n'a plus le costume et il doit absolument se retrouver un uniforme pour la baston finale. Et il va donc piquer cet uniforme dans le musée qui est consacré à lui-même. Donc il retrouve son... Il a un costume totalement vintage à la fin du film. Et le gars qui était chargé de surveiller le costume dans le musée, c'est Stan Lee. Et là, il a une réplique, c'est « Oh non !» Et il dit « Cette fois-ci, c'est sûr, je suis viré.
» Pas mal.
Alors, comme promis, quelques mots sur la séquence post-générique. Promis, je ne vous dis pas ce qui se passe. En tout cas, ça a fait hérisser les poils.
Alors, test, vas-y, parle.
Ça a fait...
Ok, je peux.
Voilà, ça a fait hérisser les poils des fans purs et durs Marvel, puisque il y a trois personnages qui sont introduits dans cette séquence post-générique, dont deux qui sont extrêmement connus.
D'accord.
Je ne dirai pas de qui il s'agit. Je vous dis juste qu'ils sont
on
deux
verra, on
et qu'ils
verra.
Sont très connus.
On verra, donc une fois de plus, rester jusqu'à la fin du générique. Ça fait chier les dames qui nettoient les traces de popcorn entre les travées.
Je peux juste vous dire qu'il y a une deuxième séquence post-générique qui est plus là en termes de petits gags à la fin du gros générique. Et que l'un des personnages de cette séquence est incarné par Thomas Kretschmann, qui dira quelque chose à ceux qui connaissent cet acteur en tant que second couteau ou qui ont vu ses films qu'il a tournés en langue allemande. Voilà, j'y vais y arriver.
Jawohl.
Captain America, le soldat de l'hiver, un très bon cru de la franchise Marvel. Bon, moi, de toute façon, j'étais fan du premier film Captain America, enfin fan. Je le trouvais bien fichu, il y en a beaucoup qui l'avaient trouvé raté. Moi, j'aimais bien ce côté vintage, aventure à l'ancienne de Joe Johnston.
Il tournait bien. Ouais.
Voilà, film extrêmement réussi, des séquences d'action qui fonctionnent très très bien. Voilà, allez-y, Captain America, le soldat de l'hiver, qui est encore à l'affiche, réalisé par les frères Anthony et Joe Russo, avec le casting dont je vous n'avais pas parlé, Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel Jackson et Robert Redford.
Voilà, et tout ça pour dire que Winter is Coming, c'est une thématique en liaison avec ETGS, Spring Break.
Exactement. Beaucoup de questions d'hiver en ce moment.
Eh bien, j'ai pas de son là.
La loi des séries.
Loi des séries.
Ah, direct, carrément. Loi des séries. Oh, oui. Pas de break, que dalle, quoi.
Bah non, t'as vu l'heure, il est 13h19.
Hein. Ouais, c'est vrai.
Vous écoutez FMR.
Plus.
Une série et d'autres, c'est la venue sur TF1. TF1 qui fait très fort cette semaine. Lundi dans le mauvais sens, à 20h55, tu veux dire... Taxi Brooklyn. Ah une non. Première série de EuropaCorp.
Oh non. C'est Queen Latifah.
Ah, non, c'est pas la première série.
C'est pas la première série, mais c'est la première qui est coproduite aux États-Unis.
Taxi Brooklyn, donc, bah, c'est la déclinaison des films Taxi. Je crois qu'il y en a eu 4 au total.
Oui.
Et bah, on en fait une série. Merde. On utilise le même concept, sauf qu'on va le déplacer à Brooklyn.
D'accord. Mais c'est des acteurs américains.
Alors, du côté du casting. Alors, tout d'abord, on va parler du EuropaCorp qui produit. 3,5 millions de dollars par épisode quand même. Une première saison à 12 épisodes.
La moyenne c'est 1 million pour les chaînes du câble, excepté HBO, et 2 millions je crois pour les chaînes pour les networks. Là c'est largement au-dessus. Hein.
Ça dépend du prix que coûtent les acteurs principaux.
Ouais.
D'accord.
Et s'ils sont producteurs aussi.
Quand t'as un Charlie Sheen à 1 million de dollars l'épisode,
ouais. C'est pour ça qu'ils tournent dans un appart d'ailleurs.
Tu réduis quoi. C'est pour ça que les décors sont limites.
Ouais, c'est un appart. Ouais.
Bon, mais c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de le payer aussi cher.
C'est pas faux.
Alors donc Taxi Brooklyn avec donc dans le rôle du flic une fliquette. Hein, donc le rôle qui était tenu par Diefenstahl. C'est Tyler Lee qu'on a déjà vu dans le rôle de Lexi dans Grey Anatomy. Alors que
bah oui,
ah, le chien galeux quoi.
Je pouvais pas mettre autre chose.
Bah si, t'aurais pu quoi. T'aurais pu.
Voilà, c'est le générique de du sport en fait, si vous le savez pas.
De toute façon, il y a plus d'émission maintenant. Alors.
Le chauffeur de taxi, c'est un Français qui s'appelle Jackie Ido. Un black qu'on a déjà vu d'ailleurs, qu'on voit d'ailleurs au cinéma en ce moment dans le dernier de Lelouch qui s'appelle Salo, on t'aime avec Hallyday et Mitchell entre autres. Et il a également eu un petit rôle dans Inglourious Bastard, entre autres, enfin, au niveau des films connus, quoi. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que, bon, ben, ils se sont dit, ça va se passer à New York, donc on va pas faire ça. Nous, les Français, on débarque et puis on te le fait à la Guillaume Canet. Non, non, on va laisser ça aux gens qui ont l'habitude, qui sont déjà syndiqués, comme ça, ça coûte moins cher, quoi. Et le mec, le showrunner, quoi, comme on l'appelle, hein, il est superviseur, enfin, bon, tout le bordel et tout, quoi, c'est Gary Scott Thompson. Donc, c'est le mec qui a fait. Le scénario du premier Fast and Furious. Après, il s'est attelé en tant que showrunner à la série Las Vegas.
Donc, ah ouais, hein, ça a dû changer.
C'est lui. Bon, ça, c'est une petite erreur, mais c'est pas lui, quoi. Il a fait le remake de K2000, la nouvelle série qui est sortie en 2008.
Qui va être diffusée sur NRJ. Hein.
Et puis également.
Qui va être diffusée sur NRJ 12.
Également d'autres scénarios, dont entre autres une collaboration avec Verhoeven pour le Hollow Man. Kevin Bacon, quoi. Enfin bon, ça va, quoi. C'est quand même pas trop mal, quoi. Hein, on peut dire que ça tient un petit peu la route. Donc, ça, c'est à partir de lundi soir, 3 épisodes sur. TF1, bon, on peut quand même dire que ça va changer de Mimimati.
Oui.
Ou de Camping Paradis.
C'est clair.
Hein, c'est clair.
Ils ont du bol qu'en plus sur la 2, il n'y a pas de grande série en même temps. Quoi qu'il voulait, ça marche plutôt bien. Quoi.
Oui, ça se regarde. Hein, c'est,
non, mais en audience.
Oui. Mais ça se regarde en plus, il n'y a pas de problème. Quoi.
Oh, oui, bien sûr.
Alors, TF1 qui a complètement.
Changer de vitesse.
Changer de vitesse parce que bon, bah, on avait l'habitude du téléfilm ou de la série française le lundi soir, hein, disons, histoire de faire bien contrebalancer avec la série américaine ou anglaise sur France 2 quoi, à la, le même soir. Et là, bon, ok, quoi, ils se disent pas de problème, on va foutre un truc et tout, qui soit disant français, quoi, mais enfin, qui n'est pas du tout, du tout, du tout. Quoi. De plus, la même semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, ils déprogramment sauvagement Personne au Vite Terrestre, dont ils avaient programmé les deux premiers épisodes de la nouvelle saison mardi prochain, pour nous mettre la nouvelle saison d'Unforgettable.
Non, non, ça, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait. Et c'est-à-dire mettre les deux premiers épisodes de la saison suivante, comme ça, le cliffhanger est encore plus fort. Alors qu'ils n'ont pas compris que c'était
l'inverse. Il n'y a pas de cliffhanger.
C'était F1. C'était
le cliffhanger, il est à la fin de la saison, quoi. Après, il n'y a plus le cliffhanger. Après, c'est deux épisodes qui sont plus ou moins. La série avec.
Non, mais il n'y en a qu'une dans les burnes.
Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, quoi. Quel est l'intérêt de la série Person of Interest?
Ah ben, c'est les histoires indépendantes. Mais il y a quand même un fil conducteur.
Le fil conducteur, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Et là, bon, bah, dans les deux premiers épisodes, ok, on apprend que Ruth, ok, quoi, elle est suivie par un psy et puis que, bon, elle a certainement beaucoup de choses dans la tête. Mais à part ça, on n'en sait pas beaucoup plus, quoi.
Ok.
Et c'est quand même ça le plus important. Enfin, bref, quoi. Je vais rester poli, quoi. Bon, les films, alors, cette semaine à la télé. Sur Canal Plus Cinéma, ce soir, à 22h20, Royal Affair, le film de Nikolaj Arcel avec Mads Mikkelsen et Alicia Vikander. Sinon, une petite soirée JCVD ce soir. Ça fait trois fois que je dis soir en moins de deux phrases.
Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmation le soir, hein, t'as raison.
Ouais, mais moi, je fais que ça, quoi, en plus, généralement, quoi. Alors, RTL 9, c'est du JCVD avec deux gros classiques. Non, un gros classique et puis un film plus dispensable, on va dire. D'abord, Bloodsport, ouais, pas mal.
Oui, ça, c'est du classique.
Et ensuite,
ça.
Universal Soldier, mais pas le premier, le deuxième, hein, le 99, donc avec Michael J. White. Sinon, rattraperez-vous sur Ciné Plus Classique ce soir à 22h20, Les Tueuses en collant noir. Un film japonais de Yasuharu Hasebe qui date de 1966 avec Akira Kobayashi et Kokue Kamo, qui est une histoire d'un type qui essaie de sortir sa petite amie de ses fréquentations de la pègre et tout, et il va être aidé par une équipe de jeunes tueuses habillé en collant noir.
Ah ouais,
ça donne envie. Hein. Mais juste après, et puis en plus juste après, quoi, il y a le torso de Sergio Martino, qui est un film qui est à regarder quand même une fois dans sa vie. Si vous voulez voir un petit peu ce qu'était le vrai trash, le vrai gore dans les bonnes années 70.
Ah ouais.
Sergio Martino, c'est le mec qui a fait après des post-apo dans le style... je crois que c'est lui qui a fait les rats de Manhattan et des trucs comme ça, quoi. Bah, début des années 80. Mais là, attention, quoi. Là, c'est vraiment un film que je qualifierais peut-être de déviant, à la limite. Parce qu'il y a quand même des scènes de torture et assez horribles, assez effroyables quand même.
Ah mais pour que du sport dise que c'est un film déviant, il faut s'accrocher. Hein.
Ouais, non, vraiment.
Je préfère
quoi.
Rester sur la Volvic. On posera la question à Alain Carazé, il est à Toulouse au TGS en ce moment.
Ah bah ouais, d'accord. On va essayer de le choper demain alors quoi. demain, ce soir sur OCS Géant, il y a également le premier film de Nicolas Rey en 48, Les Amants de la Nuit avec Farley Granger et Cathy O'Donnell. Farley Granger, vous le connaissez parce que c'est quand même le mec qui a fait deux films, ce qui est déjà pas mal, quoi, avec Alfred Hitchcock. Il a fait La Corde en 48. Bon, bah c'est sûr, on parle de James Stewart parce que c'est lui l'acteur principal, mais c'est lui qui tient le rôle également dans Stranger in a Train, L'Inconnu du Nord Express. Cette fameuse histoire du type champion de tennis qui rencontre un autre mec dans le train et puis il propose de s'échanger des meurtres. Ni vu ni connu, puisqu'ils se connaissent pas, ils viennent de se rencontrer dans le train. Et Farley Granger, il commence à flipper parce que bon, bah, il se dit ouais, bon, laisse tomber, fuck, ouais, pas de problème quoi. Mais quelques semaines plus tard, quelques temps après, sa femme est assassinée, enfin, c'était une partie du contrat. Et alors là, c'est là que ça commence à devenir très dur. Le film est très bien quoi, enfin, bon, je sais pas si vous avez vu, c'est un Hitchcock qui est quand même assez fameux quoi.
Ouais.
Mais vraiment, ça, c'est vraiment très très bien. Alors que Farley Granger, justement, quoi, bon, bah, il aurait pu être un bon acteur, un grand acteur, hein, et bon, bah, il n'a jamais connu vraiment la gloire. Bon, c'était peut-être dû aussi au fait qu'il avait un train de vie un petit peu spécial pour le Hollywood de l'époque. Hein, il était bisexuel, pratiquement affiché, et que bon, bah, il a eu quelques petits problèmes personnels, enfin bon, psycho, quoi, assez grave et tout. Il faut dire que Robert Walker, justement, quoi, le mec, l'acteur qui joue avec lui, justement, ce fameux échange dans L'Inconnu de Nord-Express, le mec, quelques mois après, il crève. Parce que bon, bah, il était déjà alcoolique, enfin bon, pratiquant des drogues et tout ça et tout, quoi. Et puis bon, un cocktail mortel, quoi. L'a tué quelques mois après la fin, enfin, après le début de la sortie du film, quoi. Donc, c'est assez intéressant à voir quand même. Donc, Farley Granger dans Les Amants de la Nuit de Nick Rey. Sinon, on a également ce soir, et ça c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère, sur Discovery Science à 21h, L'homme au plus gros testicule du monde. C'est un documentaire. Et en fait, c'est pas drôle du tout. Enfin, c'est pas tellement drôle parce qu'en fait, bon, c'est le mec qui est un petit peu atteint des fantasies, hein, c'est-à-dire bon, bah, les couilles qui gonflent et tout, quoi, qui vont jusqu'à peser 60 kilos dans ce cas-là. Et c'est l'histoire de Wesley Warren, donc, et qui va se faire opérer. Et puis il y a des images d'opération et tout, quoi. Et il faut savoir que bon, bah, il va survivre, mais pas longtemps, quoi. Il va mourir un petit peu après, quoi. Donc voilà, quoi. Ça dépend de l'atmosphère, mais pas trop.
Et ah ouais, juste ouais, après, voilà, une autre opération, il y a Monster sur France 4.
Ouais, si tu veux. Bon, ben, dimanche, demain, super, demain sur Energy News, Unité d'élite de Jesse Terrero avec 50 Cent, Forest Whitaker, Robert De Niro. Ça te dit ça?
Du Burnet, tiens,
ok, quoi. Et sur N23, numéro 23, à 20h40 demain soir, Shooting Dogs, le film de Michael Caton-Jones. Là, c'est un peu plus sérieux quand même. John Hurt et Hugh Dancy, ou comment les Anglais, le film a été tourné en 2003, comment les Anglais voient, moins de 10 ans après, comment s'est passée l'histoire du Rwanda, dont histoire dans laquelle on se débat en ce moment. À l'occasion des 20 ans.
C'est clair qu'on est en plein dans l'actualité.
Là. Ok. Six filles demain soir à 20h50. Ghost Quake, la secte oubliée de Jeffrey Scott Lando. Celui-là, c'est un de mes favoris, hein, au niveau nanar. Il n'y a pas de problème. Hein. Le mec, il te fait tout et n'importe quoi. Hein. Et là, eh ben, c'est l'histoire de personnages qui se retrouvent dans un lycée, dans les Léocon d'un lycée. Et puis bon, le problème, c'est que ce lycée, autrefois, il était hanté, quoi.
Et puis là, bon, bah, autrefois, il y avait un cimetière indien.
Voilà. Ça. Bon, ouais, alors, il y a quand même Jonathan Baron, Danny Trejo et Charisma Carpenter. Tu vois? Pour te dire quoi, que ça vaut le coup de regarder le film.
Ça tombe bien, moi aussi, j'ai
bien
mes impôts.
Pour savoir comment font ces acteurs-là pour gagner leur argent et payer leurs impôts.
Oui, sinon, bah, c'est la saison. Hein.
Bah ouais. Ciné Plus Club. Alors là, je veux dire que quand il est sorti à Toulouse, je suis allé voir deux fois pratiquement de suite, à 20h45, le Festin Nu de Cronenberg, avec le casting qui troue
de la mort. Qu'il faut, ouais.
Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands, Roy Scheider. Et ça, c'est encore ceux qu'on connaît, quoi, parce que bon, il y a tous les autres et tout, quoi. Et bon, le film magnifique et tout. Alors, c'est vraiment une adaptation très, très large du roman de William Burroughs. Vraiment très très large, quoi. Bah, mais là, il réussit son coup, Cronenberg, parce qu'il garde son univers qui lui est personnel et qui va garder pratiquement toute sa vie, sauf les derniers films, hein, dont le dernier qui est pratiquement une espèce de documentaire, il me semble. L'histoire sur la vie de Freud, là, le truc qu'il a fait, là,
Dangerous Method.
Ouais. Qui est vraiment très. Enfin, pas documentaire.
Ouais, bah c'est un peu ampoulé, ouais. C'est un
voilà,
peu.
Voilà. Mais sinon, bon, bah, ok. Et là-dedans, il y va à fond les manettes. Quoi.
Alors,
là,
il faut bien savoir que le Festin Nu, en fait, c'est autant une adaptation de The Naked Lunch, le bouquin de Burroughs, qu'une adaptation de la propre vie de Burroughs. Puisque justement dans le film,
Mais de toute façon, les bouquins de Burroughs sont les adaptations de sa propre vie.
Oui,
hein.
Aussi, oui.
Attention, quoi.
Mais après, c'est un film particulier. Hein, si vous n'êtes pas prêt à voir un film où il y a des machines à écrire organiques qui donnent une sève aphrodisiaque pour stimuler la créativité de l'écrivain, si vous n'êtes pas prêt à voir la métaphore qu'il y a derrière, c'est pas la peine. Hein.
Ouais, parce que si vous voulez, quoi, les effets spéciaux que vous pouviez voir dans le début des années 80, des films de Cronenberg et tout, qui étaient quand même déjà un peu spéciaux, ouais, on va dire, là, ils sont exploités, mais vraiment à fond. Disons, c'est le film qu'il a fait le plus à fond, à mon avis, quoi.
Oui, et puis c'est un film où les effets spéciaux sont encore physiques.
Oui.
Donc c'est très avec des maquettes, du caoutchouc.
Toujours, quoi. Donc à voir, hein, c'est sur Ciné Plus Club demain à 20h45. Sinon, sur Polar demain à 20h50, le mercredi décembre, bon petit Polar hein, d'Edward Burns, avec Edward Burns, Elijah Wood et James Sandy. Ou alors, on a également demain soir sur FX à 20h50, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, avec Michael Moriarty et Samuel Fuller, qui joue donc dans le film de Larry Cohen. Lundi sur Arte, on a décidé de faire une soirée spéciale Stephen King avec tout d'abord Misery de Rob Reiner, le fils de Carl.
Allez, plus qu'une jambe.
Kathy Bates, James Caan, Lauren Bacall, enfin bon, surtout James Caan, hein, il est excellent là-dedans, quoi. Et suivi du Carrie de Palma, donc.
Très bien.
Très bons films.
La première adaptation de Stephen King à l'écran, Grand Prix d'Aboriaz, enfin bon, ok, quoi. Sinon. Peut-être qu'il y a une petite curiosité qui vous fera hésiter, parce que bon, Misery, Carrie, bon, hein, c'est des classiques, on va dire. Sur Ciné Plus Club, lundi à 20h45, ça s'appelle Tyrannosaure. Mais attention, c'est pas du tout un film de monstre. C'est un film de Paddy Considine, film anglais, donc avec Peter Mullan, Olivia Colman. Olivia Colman, la nana qu'on voit avec David Tennant dans Broadchurch.
Ah oui, d'accord.
Eddie Marsan, Ned Denney. Et c'est vraiment du Ken Loach, quoi, on va dire. Bon, Peter Mullan, acteur fétiche de Ken Loach et tout. Et là, c'est Paddy Considine qui s'y met et tout, quoi.
Vous en avez parlé dans son film, d'ailleurs.
Moi, le pitch que j'ai lu, quoi, me donne envie de le voir et tout, quoi. Vraiment, quoi. Parce qu'en plus, avec servi par des acteurs et des actrices comme ça, hein, ça peut donner quelque chose de bien, quoi. Lundi encore, hein, c'est sur OCS Shock, cette fois-ci. C'est encore anglais, hein, c'est de Holly Blackburn, c'est Donkey Punch. Un film de Robert, un film de Holly Blackburn, donc avec Robert Bolter, Sian Breakin, Tom Burke, qui a un, on pourrait dire que c'est un film Spring Break, parce que c'est l'histoire de petits jeunes anglais, quoi, qui vont faire leurs vacances à Majorque. Spring Break, mais seulement ça va pas se passer comme prévu. Voilà, c'est ce qu'on dit généralement quand.
Mais à ce moment-là, sinon, leur carte bleue fut piratée, ils avaient plus de fric.
Les boules, quoi. Comment on va se faire pour se payer les sorbets? sinon, lundi, il y a également Peckinpah, En veux-tu, en voilà. D'abord sur Ciné Plus Club avec à 20h45 Croix de Fer, suivi de, à 22h55 ouais. Le Convoi, suivi à 0h40 du Un nommé Cablehog. Le Convoi avec Burt Young, dont j'ai vachement apprécié l'interview dans le SoFilm.
Donc,
poli, quoi. Hein. Il parle d'ailleurs de ce film, il parle de ses relations avec Peckinpah, hein. Très très intéressant. Quand il descend carrément Scorsese pour Les Affranchis,
ah oui,
excellent.
Bah là, ouais, d'accord, c'est pas un net film sur une balance.
Non, Rat. alors Peckinpah, donc Ciné Plus Classique, trois films, donc c'est lundi soir, mais également sur Action, deux films, Wild Bunch. La Horde Sauvage est suivi de Pat Garrett et Billy the Kid, qui sont les films les plus connus de lui, mais malheureusement sur Action, des fois c'est pas avec la version originale. Donc,
c'est
voilà.
Même très rarement avec la version
originale. Souvent en deuxième partie de soirée, c'est VO, quoi. C'est pour ça, mais tu sais jamais quand au départ c'est diffusé. Mardi sur Paris Première, alors là, c'est à Thomas que je m'adresse. Thomas qui est un esthète quand même.
Donc c'est du tennis féminin sur Paris Première, c'est ça ?
Féminin, oui. Tennis, non, pas tellement. Quoique, attends que je me souvienne. Non, je crois pas qu'elle joue au tennis à un moment donné.
Elle prend autre chose.
Dans la série des films légèrement excitants, quoi, que diffuse Paris Première en deuxième partie de soirée. On a vu toute la série de Russ Meyer, rappelle-toi. Et d'autres, quoi. Là, eh bien, ça faisait longtemps, mais vraiment très, très, très longtemps, parce que ça fait combien de temps que je fais cette chronique ? Combien d'années ?
11 ans.
11 ans. Donc, ça fait 11 ans que je me fade le programme télé de la semaine de long en large et en travers. Et je crois me souvenir que c'est la première ou la deuxième fois que ce film, qu'un film de ce type est programmé, alors qu'on en a déjà parlé, quoi. Il s'agit de Premier Désir de David Hamilton.
Okay. Mais c'est
toute une esthétique.
Oui, avec les flous.
Voilà. Okay, alors, d'accord. David Hamilton, photographe très connu au départ.
C'est pas le spécialiste de la plante en premier plan.
Entre autres, quoi.
Parfois.
Surtout des ridicules blancs, quoi, transparents, translucides, comme ça, quoi. Tu sais, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Quoi. Alors donc, Premier Désir de David Hamilton avec Emmanuel Béart, Stéphane Freys. Jeune, Anya Schutz, vous ne connaissez pas Monica Brooke non plus, et Patrick Beauchaud. Ça,
ah
c'est
oui.
Normal.
Oui.
Normal. Donc, alors, jette-y un coup d'œil, fais-toi une idée un petit peu quoi de la chose. Mais bon, bah, à une époque, ça a eu quand même un sacré retentissement. Il faut dire qu'à l'époque, quelques années auparavant, était sortie toute la série des Emmanuels. Et comme David Hamilton était quand même un photographe spécialisé dans ce genre de trucs et tout, bon, un petit peu plus tard, quand la morale s'est fait un peu plus prude, on l'a accusé de perversion, de pédophilie, de ce que tu veux et tout, parce que c'est vrai que sur certaines photos, sur pas mal de photos, si tu regardes sur, je sais pas quoi, sur le net, bah, tu remarqueras qu'elles ont l'air très jeunes.
Ouais.
Donc c'était un peu limite quoi, on va dire quoi. À l'époque ça passait très très bien, hein, je veux dire ça choquait pas trop de monde quoi, du moins on les entendait pas, mais il y a eu un retour de manivelle un petit peu plus tard quand même. Donc ces premiers désirs de David Hamilton, c'est mardi prochain sur Paris Première à 22h30, rassurez-vous il n'y a pas besoin de la VO. D8 vous propose une soirée sévèrement burnée, par contre le contraste avec
ouais, ça changera de touche pas mon poste, hein.
De premier désir surtout quoi, avec le règne du feu tout d'abord de Rob Bowman et tout quoi.
Ah, mais c'est une merde.
Mais non, c'est pas une merde, c'est merde quoi. Attends,
non, il parle sans savoir, il a pas vu.
Mais ouais, il l'a pas vu quoi. Et
alors,
tout le monde
ça parle de quoi?
Alors attention, parce que
le règne du feu,
non.
Ah non, mais
c'est
attends,
le truc avec... c'est le truc avec les dragons.
Voilà, c'est allez, le truc allez, avec les dragons.
Voilà. Okay. Avec qui dedans?
Non, mais tu me demandes la mémoire des noms.
Warwick Davis a également tourné dans les trucs avec des dragons.
Eh oui.
Et c'est pas des merdes.
Alors, Matthew McConaughey, Christian Bale.
Voilà, déjà quoi. Au départ.
Non, mais moi je les prépare pas, vos chroniques.
Au départ.
Et d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui ai fait la bio? Warwick Davis, t'es pas censé être toi?
Au départ quoi. Suivi de 22h45, un film dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais pas m'étendre dessus. Le Black Death, donc si vous l'avez pas vu, hein, le Christopher Smith avec Eddie Redmayne, Sean Bean, David Warner, hein, Carice Van Houten. C'est vous que ça regarde.
Van Houten, c'est une marque de chocolat ça?
Non, Carice Van Houten, c'est.
Non, là, laisse tomber quoi.
C'est l'actrice hollandaise.
Ah, donc il y a du lait.
Non, elle est pas hollandaise, hein, elle est anglaise.
Elle est anglaise?
Oui.
Ah
ouais,
parce
oui,
qu'elle
oui,
avait commencé chez Verhoeven dans Black Book. Enfin, c'est ça.
Non,
ce
mais
là qu'il avait essayé.
Non, mais c'est une Hollandaise, mais qui est née en Angleterre. Enfin,
d'accord.
C'est une histoire comme ça, quoi.
D'accord, multiculturelle.
Elle a un nom hollandais, ça, il n'y a pas de problème, mais bon.
Non,
parce qu'elle
la
est connue. Elle a tourné dans les séries anglaises et tout. Je me demande si elle n'a même pas tourné dans les soaps les plus connus de EastEnders, enfin, un truc comme ça.
D'accord.
Quoi, au départ, pour lancer sa carrière.
Enfin, en tout cas, encore une actrice dont on sait beaucoup de choses sur son anatomie, en tout cas.
Et on n'est pas mécontent.
Voilà.
C'est pas possible, vous l'avez répété.
Merci Thomas. Non, pas du tout. Mais bon,
vous
nous au
mal
moins
répété.
On regarde. Tu vois, les trucs dont on parle, on regarde. On sait de quoi on parle.
13h40.
Quoi, généralement.
Alors, 13h40. Merci le CSA d'arrêter d'appeler sur ma ligne.
Heureusement que j'ai déjà préparé mon émission de 14h. Dès 17 mardi prochain à 20h50, mort sur mortel. De Noël Nosek avec Harry Hamlin et Jack Scalia ainsi que Shannon Sturges. Là, c'est les serpents qui mordent. Mardi toujours sur OCS géant à 20h40. Faut se faire la malle, un film de Sidney Poitier. Le titre original c'est Stir Crazy, mais dans ce film qui raconte l'histoire de deux types qui sont des losers qui viennent de New York et tout, qui se disent on va aller en Californie, à Los Angeles, pour se faire du pognon et tout, quoi. Ils se font embaucher dans une banque et puis malheureusement, ils se font prendre pour des braqueurs de banque. Et donc, ils vont finir au trou, d'où le titre, faut se faire la malle, donc l'évasion de prison et tout, quoi. Alors, c'est tenu par ceux qui étaient considérés comme faisant partie des meilleurs acteurs comiques de l'époque aux États-Unis, Gene Wilder, Richard Pryor, ok quoi, et avec Jobette Williams, Craig T. Nelson et tout quoi, bref, un film hyper rigolo à regarder et tout quoi, en version originale, même la version française est marrante, c'est pour vous dire. Cinéfix, c'est toujours mardi à 20h50, un million d'années avant Jésus-Christ, là les dialogues on s'en fout. Dans le film de Don Chaffee, en fait, c'est parce qu'il y a Raquel Welch dedans.
Et son corset déchiré.
Voilà. Non, pas de... déchiré. Ouais, non.
Enfin, c'est de la peau de bête, donc.
Ouais, découpé c'est... avec des pierres, hein,
voilà.
À peine taillées, quoi. Voilà. Donc c'est normal, ça a l'air déchiré. Mercredi sur Energy 12, on en parlait.
Faut faire gaffe aux baleines et aux échardes.
Mercredi sur Energy 12, on en parlait. Juste avant, eh bien, oui, c'est le retour.
K2000,
le retour, 20h50. Et à 22h15. 15, donc K2000, la série, les trois premiers épisodes. Sinon, sur D17, il y a également Attack Force à 20h50, le film de Michael Kutch avec Steven Seagal. Il a déjà fait Shadowman avec lui auparavant, la même année, quoi. Et on y retrouve Lisa Lovrand ainsi que Danny Webb. Danny Webb, tu sais qui c'est ? Tu l'as vu déjà. Tout le monde l'a vu. Parce qu'en fait, c'est le seul mec survivant dans Alien 3.
Ah oui, le jeune, d'accord, à la fin, ouais.
Voilà.
Qui appuie sur le bouton.
Voilà. Et, donc, il est dans Attack Force, un film où Steven Seagal, bien sûr, il est employé par l'armée américaine. Et puis bon, il y a des pourris, donc il faut y aller, quoi. Et il y a cette réplique que vous n'aurez... Ah si, quoique sur D17, si, des fois, t'as la version originale. T'as la réplique qui tue. There's just two things you need to know about Lawson. Lawson, c'est le personnage de Seagal. One is he's a bad motherfucker. And two, he's a bad motherfucker. Rien que pour ça, tu peux regarder le film. Enfin, ça, c'est au début, quoi.
Non. D'accord.
Ok.
Ah, ok, bon, bah, si c'est au début, ça va, on survivra.
Ouais. Et c'est suivi de Mercenary for Justice. Mercenary, c'est le titre français. Mercenary for Justice, c'est le titre original. Le film de Don Fauntleroy avec également Steven Seagal et Jacqueline Lord ainsi que Luke Goss. Donc,
Luke Goss, oui.
Ouais, le même genre d'histoire. Ouais. Même genre d'histoire. CIA, enfin bon, voilà quoi. 2006 également. Hein, donc, à l'époque, des TV à fond les manettes. Sinon, mercredi prochain, ciné plus classique, là, c'est un petit peu plus moins dispensable, on va dire, à 20h45, le Machine Gun Kelly de Roger Corman avec Bronson. Et ouais, quand même, quoi. Ou alors, OCS Géant, un excellent western de William Wellman, qui n'avait pas trop l'habitude, on va dire. Hein. Ça n'a pas été son kiff spécialement, mais enfin, bon, c'était le mec qui faisait les trucs sur commande, on va dire. Série B réalisateur quoi. Track of the Cat avec Robert Mitchell, Tab Hunter et William Hopper, une histoire de bestiole, un chat sauvage, une grosse panthère, un truc comme ça quoi, qui bouffe les troupeaux et donc il faut la dégommer. Ouais, bah, tu vois, c'est simple, pour une fois il tue pas des êtres humains. FX vous propose à 20h50 mercredi prochain Brainstorm, le film de Douglas Trumbull avec Christopher Walken, Natalie Wood, Louise Fletcher, l'infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, et Cliff Robertson. Douglas Trumbull, c'est le mec qui est plus connu parce qu'il a commencé sa carrière en travaillant un petit peu pour la NASA. Puis après, bah, il s'est un petit peu occupé des effets spéciaux de 2001 à l'Odyssée de l'espace, puis de ceux de Rencontre de Troisième Type, puis de ceux de Star Trek le film, puis de ceux de Blade Runner.
Ça va.
Et il avait déjà réalisé Silent Running en 81, et donc il réalise en 83 ce Brainstorm avec Christopher Walken, donc Natalie Wood et tout. Natalie Wood qui allait crever peu de temps après. D'ailleurs...
T'es pas obligé de rigoler avant tout ça. Ah, il est mort de rire.
Non, non, mais bon... pour dire que bon, bah, il a jamais eu de cul, parce que Silent Running, c'est pareil, c'est un film où il expérimentait des nouveaux trucs et tout, quoi, ça a été un flop. Là, le film, il expérimente une nouvelle technologie qui s'appelle le Pan and Scan, je crois, autant que je me souvienne. Et puis, pour avoir des images un peu plus nettes et tout, quoi, style, il se dit, putain, je vais faire du Blu-ray avant le Blu-ray. Et puis bon, le film, un petit peu spécial quand même, la mort de Natalie Wood, le film a fait un flop, quoi. Enfin bon, le mec, en tant que réalisateur, bon, il a jamais eu de chance.
Il est maudit.
Mais ouais, mais pourtant, bon, c'est des bons petits films, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, jeudi, alors, sur Arte, retour pour les gens qui avaient loupé. Je crois qu'il ne diffusait pas le jeudi, mais le vendredi, quoi. Mais enfin, bon, c'est quand même pas mal. C'est une série d'enquêtes policières suédoises. C'est soirée suédoise, d'ailleurs. Hein, série suédoise, le jeudi sur Arte, avec les enquêtes du commissaire Winter. Ça se passe à Göteborg, il fait froid, c'est tout le temps la neige, il fait tout le temps gris et tout, quoi. Enfin, c'est vraiment très très bien. Bonnes enquêtes, des trucs vraiment très très bien. En plus, en deux parties à chaque fois, hein, c'est-à-dire deux trucs de 50 minutes, mais ça vaut le coup. Le personnage principal, l'acteur principal qui interprète Winter, est vraiment un très très bon acteur. Donc on peut se dire que c'est pas mal, quoi. C'est à voir si vous ne l'avez pas vu. Et c'est suivi, c'est une rediff, quoi, de Being Humans, donc... qui est aussi une série assez appréciable.
Putain, 13h47 sur Radio FMR. Ouais.
Paris Première vous propose jeudi toujours Bullitt de Peter Yates. Sinon, sur France 4, jeudi prochain, c'est Sherlock avec
la
son
conclusion.
Dernier coup d'éclat. Avec, dans le rôle du méchant, Lars. Lars Mikkelsen.
Arrête de hurler, tu me fais mal les oreilles.
Le frère.
Le frère aîné. Donc, Lars Mikkelsen, parce que bah, il a un an de plus que lui. Hein. Un an et demi, on va dire. Hein. 6 mai 64 pour Lars. Et 22 novembre 65 pour Mads. Et là, bah, ok, quoi. Là, je pense que je vais me mettre à regarder Sherlock un peu, quoi.
T'as tort. Ouais, l'épisode de jeudi dernier était à pleurer de rire, quand même.
Tu vois, et qui me fait perdre du temps, là, maintenant, quoi. Jeudi, toujours, ciné plus classique vous propose Joe Caligula, un film de José Benazeraf en 66. Benazeraf qui, après, ben, nous a fait plus des films un petit peu olé-olé, voire franchement pornographiques. Et là, ben, c'est un film chronique d'un petit truand quoi, dans Marseille qui va un petit peu grandir et puis qui va se casser la gueule. Bref, Scarface, quoi, mais à la française, avec Gérard Blin, Jeanne Valéry et Ginette Leclerc. Mais il se fout de ma gueule en plus, quoi. Mais
ah ouais, quand même.
Non, mais
ah ouais, quand même.
Pourquoi pas,
casting,
quoi,
ouais.
Pourquoi pas. FX, toujours jeudi prochain, La nuit de tous les mystères de William Castle avec Vincent Price et Richard Long. Bon, une histoire qui est déjà vue et qu'on a déjà revue par la suite et tout, quoi. Un milliardaire excentrique qui propose à des gens de les payer pour passer une nuit dans un manoir, alors sachant que le manoir a été hanté, qu'il y a eu des trucs avant, des meurtres, enfin des trucs comme ça. Quoi. Ben, tu vois l'histoire un petit peu bidon, mais bon, ok. Quoi.
Un bidon.
Tu William, dis William Castle, William... 58, Vincent Price.
Bon, William Castle,
tout de suite.
C'est le père du Richard. Pour une histoire bidon.
Je crois pas.
Bon, d'accord.
Vendredi, on termine avec Canal Plus qui propose Star Trek Into Darkness. Bah voilà, hein, Benedict Cumberbatch à fond les manettes.
Encore
hein, jeudi, vendredi. Cool, pas de problème quoi. Ou alors sur Ciné Plus Club à 20h45, Série Noire, le film de Corneau en 79 qui est un des monuments du cinéma français, un des monuments du film noir français, un des monuments du film noir tout court, faut le dire quoi, avec Patrick Dewey, Myriam Boyer, la maman de
Laurent.
On est dans les concours de famille à la con là, je suis désolé.
Bah désolé hein.
Du fiston Casaldi, voyons. Marie Trintignant, elle était encore vivante, et Bernard Blier, le papa. Voilà, c'est ça quoi. Tiré du bouquin de Jim Thompson, Hell of a Woman, sorti en 54, mais qu'en 67 dans la série noire numéro 1106, sous le titre des clics et des cloaques. Il faut dire que Thompson a quand même été un des auteurs de séries noires qui a été vachement adapté. Hein, le dernier en date, c'est Winterbottom, Le démon dans ma peau. On a eu également Tavernier avec Coup de torchon, 1275 âmes quoi, dans la version française. Pop 1280, c'est le titre original. Il y a eu Les Arnaqueurs de Stephen Frears. Enfin bon, il y en a plein, quoi, de toute façon. Et généralement, ce sont tous pratiquement de bons films ou pas des films mauvais, quoi. Donc, et celui-là, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Tu l'as vu, quoi.
Lequel ?
Série Noire.
Non, mais non, j'avais vu ni le film original ni le remake.
Ça manque beaucoup à
toi. Ben, je sais.
Vraiment, vraiment.
Bah, si c'était que celui-là.
Ouais, mais celui-là quand même. Vraiment, celui-là quand même, quoi. Tu l'as, ok, tant pis. Celui-là, par contre, tu l'as vu, c'est sur Action vendredi prochain à 21h50, peut-être plusieurs fois. Out for Justice, John Flynn, avec Jerry Orbach, William Forsythe, qui se fait dégommer la gueule par Steven Seagal.
J'ai vu une fois.
Justice sauvage. Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Ah, pour le coup, facile. Oui, j'avais le même regard inquiet que Thomas.
Quand même, quoi. On termine avec Paramount Channel qui vous diffuse vendredi prochain à 20h40. Là, ça peut être la bonne surprise. C'est un film histoire de rigoler un bon petit coup, à mon avis. Ça s'appelle The President's Analyst en version originale et c'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Theodore G. Flicker en 1967.
Mais
Flicker qui a surtout fait une grosse carrière au théâtre, en particulier à Broadway. Dans les années 50-60, il se permettait quand même de caster des gens comme Gene Hackman, George Segal et tout ça pour jouer à Broadway. Il a obtenu quelques prix et tout, quoi. Et puis bon, il a pu adapter quelques-unes de ces petites choses au cinéma, dont cette folle mission du docteur Schaeffer en version française, où James Coburn interprète le rôle d'un psychanalyste qui doit un petit peu sauver la tête du président des États-Unis parce que bon, il pète un petit peu les plombs, quoi. Et tout ça sur.
En quelle année ?
C'est en 1967.
C'était pas Nixon encore.
Non, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini.
Je m'attends.
C'est pas fini parce que justement, en plus, ce qui se passe, c'est que au même moment, eh bien, il y a des luttes d'influence qui concernent non pas le FBI dans le film, ça s'appelle FBR, le Federal Bureau of Regulation, et qui met sous écoute beaucoup de personnes.
Ah, les jeux de mots!
Bah, parce qu'ils pouvaient pas l'utiliser, à mon avis, ils avaient trop peur. Enfin, bon, disons, moi, ils devaient avoir des problèmes.
Qu'ils, enfin, tu ou vois, qu'ils ont dû se dire, l'occasion est trop bonne.
Voilà, hein. voilà. Donc,
ah, ok, toi aussi, tu es blacklisté. Oh, attends, on va leur faire une blague.
Donc, ça vaut peut-être le coup de se le regarder. En plus, Paramount Channel, vous êtes sûr d'avoir la version originale. Donc, oui. Avec James Coburn. Donc, vous n'avez jamais vu la tignasse qu'il a, James Coburn, dans ce film. Vous ne le verrez plus jamais comme ça, déjà.
Et souvent des films, d'ailleurs, dont la vidéo est en HD. Donc, il y a vraiment un grain qui est formidable. Et une prog qui est, en général, plus qu'intéressante. Franchement, ça vaut le coup.
Surtout
que c'est gratuit, alors profitez-en.
Oui. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mmh. C'est l'occasion de les voir et tout, quoi. D'ailleurs, Paramount Channel diffuse très régulièrement. Bon, ça, j'en parle parce que bon, moi, je suis fan. Mais les films d'Elvis, quoi. Donc, je parle de temps en temps. Les films d'Elvis, très souvent, l'après-midi, vous regardez sur Paramount Channel n'importe quel jour de la semaine, vous pouvez peut-être tomber sur un film d'Elvis comme ça. Mais attention, vous allez tomber sur n'importe quoi comme film d'Elvis, quoi. Des trucs que tu crois pas, quoi. Genre Elvis plongeur sous-marin. Enfin, bon. La totale, quoi. Mais bon, c'est quand même justement, c'est quand même intéressant pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'emmerdent pas la vie, Paramount Channel et tout. Ils ont vraiment un putain de catalogue. Excusez mon langage ourdurier. Mais ça vaut le coup quand même de jeter un coup d'œil. Et en plus, ce film, la musique est de Lalo Schifrin. Alors, pour te dire qu'à l'époque, les mecs, ok, quoi. C'était à l'aise, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Bref, à mon avis, c'est un film qui est assez intéressant, quoi.
C'était le Super Weekend numéro 382. Ouais. Et demain,
nous sommes au TGS Spring Break. À partir de 15h.
Alors venez, ce sera enregistré. Attends, diffusion samedi prochain. Oui, on enregistre l'émission de samedi prochain en public.
Non, mais ça, j'avais compris. Mais il me semblait qu'on commençait plus tôt.
Enfin, le temps que les gens viennent et tout ça.
Ah, mais en fait, depuis le début de l'émission, on dit à tout le monde que c'est à 15h. En fait, c'est pas à 15h.
Si, c'est à 15h.
Ah bon.
On hésitait à 14h, 15h, mais vu qu'il y aura le temps de préparation et tout ça, et autant que ça soit carré, 15h.
Ouais, du sport, il commence à dire que comme c'est quelqu'un du avec sport. Un emploi du temps occupé, il est en train de se dire, merde, ça va pas être possible.
Non, mais du sport, il consulte pas les outils qu'on a de collaboration.
En fait, je traduis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, en fait.
Et ma foi, si vous avez loupé quelque chose dans cette émission, parce qu'il y avait quand même des trucs qui le faisaient pas mal, à part nos petites crises de nerfs et nos petits coups de drama queen, voire de soap opéra, qu'est-ce qu'ils ont loupé ultimatum ?
Alors, ils ont loupé de l'envoyé spécial qui expérimente les files d'attente. Véridique, réécoutez l'émission, vous verrez que c'est le seul envoyé spécial qui va faire les files d'attente pour le plaisir. On a eu du Le Pren Show, un acteur de poche, du Batarang en niveau de verre, un drift à Brooklyn, du thriller parano avec du bouclier qui brille, du collant noir, du vrai trash, de la burne pour détendre l'atmosphère, des sorbets, rien à voir avec la ligne précédente, une rubrique anatomie féminine, du Elvis en pêcheur sous-marin et du Bad Motherfucker.
Ah là 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 là, le nom d'un cosplay, ma foi, fort déshabillé, alors qu'il fait pas un printemps si magnifique que ça. Si vous avez manqué tout ça, heureusement grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, sans accent dit tiré, supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1, nous sommes en direct en alternance. Dans le prochain épisode, c'est enregistré demain et diffusé samedi prochain, même heure, même fréquence. Merci à vous tous, ciao, bye bye.